and bold.
Encore un petit peu. Comment ça va? Heureux de vous retrouver en ce jeudi, je crois. Jeudi, 4 janvier, après une journée de triple stream hier. Ne vous habituez pas, ça ne sera pas tous les jours. Je crois que c'est ma première journée de triple stream hier. On va l'appeler la JTS, la journée de triple stream, revue de presse hier matin. Enchaînement avec une petite séquence de Valorant et puis une soirée bouclée avec... The Witcher. Je crois que ça nous faisait... on a calculé hier 3, 4... Ouais, pas loin de 8-9 heures de stream, quand même. Voilà. Vous habituez pas. Voilà. Ça ne sera pas tous les jours, c'est parce que j'ai un peu moins de choses ces débuts d'année, là, avant le retour bientôt, des émissions habituelles, notamment de Samplay. Rendez-vous dimanche sur ma chaîne Twitch. On va découvrir un beau jeu. Faut pas que j'oublie de poster le visuel aujourd'hui, d'ailleurs, avec le jeu et la streameuse qui va nous accompagner. 9h, me confirme Pépin Camille. Ça va, Camille? Que vous dire que la tentation a été grande ce matin de ne pas streamer. Pourquoi? Parce qu'il y a des matins, je me lève. Donc là, la nuit a été assez courte. Et puis je regarde les journaux, et puis je lis un journal, et puis deux journaux. Peut-être deux journaux, d'ailleurs. Trois journaux, quatre journaux, cinq journaux. Et puis, je trouve... merci beaucoup, Graceware, pour ce 14e mois d'abonnement. Merci Badadit, j'espère que je prononce bien, pour le 27e mois d'abonnement. Merci 5demi pour ce soutien. Merci Mélissa pour les beats. Et donc, et puis je me dis, c'est pas foufou l'actu ce matin. Ou c'est pas foufou les articles ce matin. Et ça dépend aussi de la forme du streamer, hein, de sa clairvoyance, de son état d'esprit, de son éventuellement le manque de sommeil. Et puis j'ai persisté en me disant, mais est-ce que c'est l'actu qui manque de talent ou c'est toi, Samuel Etienne? Est-ce que c'est l'actu qui manque de talent? Ou c'est toi, Samuel Etienne? En fait, c'était moi. Non, il y avait des choses intéressantes, plutôt en France d'ailleurs. Hier, on a beaucoup parlé de l'étranger, on a parlé du Proche-Orient, du Moyen-Orient, on a parlé de l'Ukraine, on a parlé de Cuba. Aujourd'hui, c'est c'est beaucoup la France. Et en fait, non, il y avait des choses intéressantes. C'est juste que j'avais pas les yeux assez ouverts. Et donc, je suis revenu sur le métier, sur l'ouvrage. Et puis, je me suis dit, si, il y a des trucs. Et on a une belle matière. Et on a des actus intéressantes. Et on a des beaux articles. Et donc, je me suis dit, mets-toi une pile au cul. Je sais pas si on peut dire ça. Du coup, j'ai pris un café. Et puis, un deuxième ici en arrivant. Et en fait, ça va être bien. Voilà. Hop. Il fait assez chaud. On peut enlever la casquette. La casquette qui coiffe. La casquette réchauffe et la casquette coiffe. Oh, putain, s'il y a une marque de casquette qui me regarde, mais moi je vous fais la promo des casquettes impeccables. La casquette réchauffe le matin et la casquette coiffe. Regardez, je ne pourrais pas atteindre ce degré de perfection de coiffure sans ma petite casquette du matin. Voilà, on est coiffé, on est caféiné, on a lu les journaux. Comment ça va, vous? Comment ça va? La petite goutte du matin, c'est parti. Ah, le petit café goutte, j'ai eu peur. Fab qui me parle de sa petite goutte du matin, j'ai eu peur. C'était le café goutte. Comment ça va, vous? Il y a Mélissa qui a dormi 45 minutes. Mélissa, qu'est-ce que... Mais c'est pas très sérieux, ça, Mélissa qui dit « Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, juste un peu fatigué, j'ai dormi 45 minutes, je suis là pour toi. » Mais Mélissa, tu... Mais Mélissa, 45 minutes, mais ça n'est pas très sérieux. Marconnet me dit « J'ai vu un article qu'une femme s'était mis une pile des... » Ok, ok, bon. On est sur autre chose, on n'est pas sur l'actualité. Ok, ok. Mais Cédric, il y a du Einstein dans les news aujourd'hui aussi. Alors, sur les réseaux, je passe moins de temps qu'avant sur les réseaux sociaux. Difficile de séparer le bon grain de l'ivraie et de distinguer ce qui est une information importante et fiable du reste sur les réseaux. C'est parfois un peu compliqué. Et il y a deux actus là que je vois beaucoup sur les réseaux et que je vois pas du tout dans la presse que je lis. L'affaire Epstein, voilà, où ça tweet en tous les sens, vraiment en tous les sens. Hein. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a dans des documents, mais alors vraiment, c'est incroyable. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Beaucoup de trucs comme ça, de blagues. Ah, il y a machin qui est sur. Et puis l'affaire Guerlain, une histoire de crème. C'est Guerlain, je crois. Voilà. Ça, c'est l'actu sur les réseaux. Voilà. Et puis il y a rien sur ces deux sujets dans les journaux que je lis. Alors, moi, mon réflexe dans ces cas-là, c'est de ne pas m'en tenir au fait que les médias traditionnels n'en parlent pas, en me disant peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose. C'est pas parce que c'est beaucoup sur les réseaux que c'est forcément de la merde, pour dire les choses, mais d'attendre un petit peu. Voilà. D'attendre un petit peu. Alors, par exemple, là, sur l'affaire Epstein, je vois bien qu'il y a beaucoup d'attentes, mais c'est pas encore très clair. Voilà. Oui, la crème quantique de Guerlain, exactement. Sur l'affaire Epstein, je vois beaucoup de choses. Et là, je me dis, bah, attendons. Voilà. Puisque vous savez qu'ici, on n'est pas dans la course à l'info. On préfère attendre parfois une heure, deux heures, une demi-journée, une journée, 24 heures, et trouver une information, une vraie information, un fait plus ou moins avéré, enfin, plutôt plus que moins, et puis un article de qualité. Par exemple, il y a un sujet ce matin dont je vais vous parler, qui sont les féminicides en France, et une baisse statistique sur un an des féminicides en France. Je n'en ai pas parlé hier. Alors que hier, il y avait deux articles, mais que je ne trouvais pas très clairs. Et ce matin, un article dans La Croix m'a semblé plus clair sur le sujet. J'ai attendu 24 heures, voilà, pour vous parler de ce sujet. Ben, je fais beaucoup ça, en fait. Voilà. Je fais beaucoup ça et c'est ce que je fais sur cette affaire Epstein parce que si c'est important, ben, à un moment on va trouver des articles de qualité là-dessus. Donc je surveille l'affaire, mais j'ai rien ce matin. Et l'affaire de la crème quantique de Guerlain, là, je vais fouiller, je vais creuser. On va peut-être même faire un petit crible Google pour voir si un média un peu sérieux, rigoureux nous a pondu un truc sur Epstein. Peut-être qu'on va trouver un truc et sur la crème quantique et voilà. Voilà! Alexandra, je vais aller voir sur Insta. Alexandra m'a dit qu'elle m'a écrit sur Insta, je vais aller voir. Lewis, merci pour ce 19e mois d'abonnement. Giflé par la gastro. Donc, t'as été. Comment on pourrait dire giflé par la gastro? T'as été gaflé, peut-être. Gaflé? Ou t'as été. Giflo? Ah, ça fait penser à un groupe, ça. Giflo et Oli. Ah non, ça n'a rien à voir. Donc, giflé par la gastro. Ça va, Lewis, j'espère que ça va bien quand même. Giflé par la gastro, mais on charbonne quand même, il y a des courageux. Hein. Ouais. Arwen C dit, est-ce que tu aurais des modèles de casquettes coiffantes uniquement que tu conseilles? Je trouve que des casquettes classiques. Je vais vous monter un business là-dessus. Tiens, on parlera de business avec la K-Corp aussi. Il y a une pleine page dans l'équipe sur le nouveau sponsor de la K-Corp, qui est une banque, qui est le CIC. Et c'est intéressant de voir comment... Les médias traditionnels, bon, l'équipe a fait un très bon travail sur l'e-sport, hein, notamment avec Paul Arrivé. s'intéresse de plus en plus à l'e-sport, aux jeux vidéo, à l'e-sport et même au modèle économique de l'e-sport. Une pleine page sur le fait que la K-Corp a un nouveau sponsor, quoi. C'est pas du public reportage, hein, c'est juste que l'équipe dit c'est vachement intéressant. Voilà, on finira la revue de presse par ça. C'est pour ça que je parlais de business. Pastradan, merci pour le soutien. Bon, au début, on prend de ces nouvelles mutuelles, hein, mutuellement. Eds Inferno arrive et dit est-ce que vous allez parler de l'enquête Epstein? On vient d'en parler pour dire qu'on va attendre un petit peu d'avoir les informations fiables. Voilà. Est-ce que c'est du public reportage? Ça n'est pas du public reportage. Ce serait signalé, c'est une obligation légale. Un journal de qualité qui publierait un article de public reportage, c'est-à-dire qui aurait été payé pour dire, faire passer un message, il doit le signaler. Hein. Public information, public reportage, c'est obligatoire. Sinon, c'est illégal. Mais là, ce n'en est pas. Je me suis posé la question sur le coup, parce que c'était vraiment un article très écho, quoi. Non, pas du tout. Yasodara a raison, il va falloir recevoir des champions d'e-sport sur cette chaîne. J'avoue que c'est un sujet que je ne maîtrise pas encore très bien. Je m'intéresse de plus en plus au monde du jeu vidéo, vous le savez. L'e-sport, c'est encore parce que mon expérience de gamer est quand même pas encore énorme et folichonne. L'e-sport est encore un univers un peu mystérieux pour moi. Il va falloir que je travaille là-dessus. J'avoue que je suis un petit peu à la bourre. Peut-être que d'inviter des joueurs d'e-sport, des champions, eh bien, ça pourrait effectivement m'aider. À ce propos d'ailleurs, hier je vous ai encore fait rire avec mes progrès laborieux et très lents sur Valorant. Et à un moment, certains dans le chat m'ont dit « Ah mais je suis sûr qu'il y a un garçon formidable, qui est en live d'ailleurs actuellement sur Valorant, qui est très gentil et qui pourrait venir te coacher un petit peu pour t'aider à progresser un petit peu plus vite. Voilà. » Qui s'appelle, comment il s'appelle ? Très gentil. Vous allez me le rappeler tout de suite. Merci Navado pour le 7e mois. Weeper, exactement. Weeper, très gentil. Et donc, on s'est parlé par viewer interposé. Et donc, je crois que des gens de mon chat sont allés le voir pour lui dire hey, tu voudrais pas coacher un peu ça? Mais il a du mal, le pauvre. Il est vieux, il est pas rapide, les réflexes, c'est pas ça. Je crois qu'il a répondu oui en direct. Du coup, ils sont revenus, vous êtes revenus, vous me l'avez dit. Et du coup, eh ben on s'est écrit avec Weeper, on s'est écrit, voilà, et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir à la maison pour me coacher sur Valorant? Voilà, on va essayer de se caler ça. Mais je crois qu'il n'est pas à Paris, je crois qu'il est dans le Nord. Je vais essayer de le faire venir sur cette chaîne pour qu'il me coache un petit peu. Quelqu'un de très gentil me dit Zoro le Arca, et de très bons conseils. Alors je suis allé voir son stream, parce que du coup, je les raid aussi à la fin de la revue de presse d'hier, et du Valorant, du coup. Et effectivement, j'ai vu qu'il était super chill, super... voilà, ça m'a plu. J'aime bien les gens un peu comme ça, quoi. Voilà. Donc bientôt, on va progresser, ça va progresser sauvagement. Et en parlant d'e-sport, hein, je vais tout arrêter, sans doute. Bon, ça, c'est le projet, hein, je devais pas vous en parler, mais ça fait partie des bonnes résolutions de 2024. Je vais sans doute tout arrêter à un moment, le journalisme, l'animation, la télé... le stream, tout, l'actu, le sport, pour devenir champion d'e-sport moi-même, sur Valorant. Voilà, c'est le projet. Weeper et toi, c'est une évidence, ça ne peut que marcher, me dit Becrsses. Comment ça, pourquoi vous rigolez? Ah, c'est évident avec ton niveau, dit Tropicamix. Voilà. Tu es le plus nul que j'ai jamais vu, dit Rosa. Ok. C'est pas parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Ok. D'autant que t'as déjà été banni 3 fois de cette chaîne, Rosa. Et que là, le regard que je fais... c'est le regard de quelqu'un qui n'approuve pas ce qu'il lit dans ton historique. Je vois Gros Bobo de Parigo, le 2 janvier. Je vois... ah oui, une critique sur le fait que j'ai bu du coca un matin. C'est vraiment l'exemple que tu veux donner à boire des boissons sucrées dès le matin, il faudrait que tu réfléchisses aux conséquences des actes. Détends-toi, Rosa, ça va bien se passer. Pourquoi tu boycottes pas les JO, 12 décembre ? Ok, c'est pas très amical tout ça. Hein. De sacrés bourgeois. Ok. C'est pas parce que c'est vrai que t'es obligé de dire des dingueries tout le temps. Hein. On est là chill. Hein. Rosa, c'est un garçon, c'est une fille d'ailleurs. Rosa, détends-toi, on n'est pas là pour se bagarrer. Hein. T'es pas dans Valorant, hein ? Détends-toi, ça va bien se passer. Non mais laissez Rosa tranquille, hein, c'est bon, les gens ont le droit d'être de mauvaise humeur aussi. Hein. Niabs, merci pour le prime. Merci Niabs. Salut Étienne, bien ou bien ? Bien, ouais, oui, bien en fait. Le cadre Tintin derrière, c'est un tableau que m'a offert mon beau-papa, Damien, que j'aime beaucoup, qui m'a offert ce joli tableau. C'est normal qu'il fasse nuit à 10h du matin ?
Il fait nuit ?
Renaud, tu es où ? Oui, qui tombe souvent. C'est un tableau qui tourne souvent parce qu'il n'est pas attaché. Et il vit sa vie. Parfois, il tombe. Je touche du bois parce que ici, c'est jamais abîmé, mais il touche souvent. Quand je bouge un peu trop, il tombe. C'est un Tintin doué de vie, en fait. Renan est du côté de Brest et c'est l'orage. Okay. Pourquoi Tintin ? Bah parce que c'est un cadeau et parce que je pense que mon beau-papa, en fait, a aimé le clin d'œil. Le clin d'œil du Tintin journaliste, quoi. Voilà. Et puis je trouve que le tableau est sympa. Merci. Merci, Mélissa, pour les bits. Oh, merci pour le message aussi. C'est parti pour la séquence météo. Gris et pluie en Franche-Comté. Qui me dit ça ? Heureux Franc-Comtois, pour changer en ce moment, dit Cookie Mick. Bonjour à tous, que le ton du matin soit bon, dit Céoud. On va s'appliquer. Combien de café pour l'instant ? Ça me pas trop, j'en ai bu un au réveil et un deuxième en arrivant au studio. Oui, ça va. Hein. Salut Sam, tu peux dire bonjour à mon père Didier qui prend le petit-déj avec moi, s'il te plaît, dit Astro Boy. Didier, papa d'Astro Boy, bon petit-déj et bonne journée. Et merci d'être avec nous. Est-ce que maintenant tu regardes à gauche quand tu regardes à droite ? Benter nous parle pas de politique, mais de Valorant. Pas encore. Sachant que je vais pas forcément... de rien, Astro Boy. Forcément faire une petite Valorant aujourd'hui derrière la vue de presse parce que j'ai deux rendez-vous importants pour le développement de la chaîne Twitch à 14h30 et 17h30. Donc, comme j'ai pas beaucoup dormi, peut-être que pour assurer ces rendez-vous et être un peu carré, je vais peut-être faire une petite siestoune après la revue de presse. Peut-être, si je suis raisonnable, pas faire de Valorant. Je dois y aller. Mes enfants viennent de se réveiller. Ciao, nous dit Nicolt. Bonne journée à toi. Bisous aux enfants. Il fait beau à Ajaccio. Bah oui, disait, il fait toujours beau à Ajaccio, évidemment. Grand soleil sur Montpellier. Bah ouais, bien sûr. Oh, putain, arrêtez de flex, bien sûr. Bah ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là, j'ai passé une semaine en Franche-Comté. C'était pas le grand beau, hein. Mais il faisait doux, très doux. En même temps, c'est normal puisque la rivière qui traverse Besançon s'appelle le Doubs. Donc c'est logique. Gros nuages sur Bruxelles, il fait beau à Paris. Ah oui, remarque, c'est où, t'as raison. J'ai marché quelques mètres pour passer de la maison au studio et effectivement, je crois me souvenir vaguement qu'il faisait beau. Ouais. Petit soleil en Lorraine, me dit Pipix. Tu reviens souvent à Rennes, autant que je peux, m'attache, puisque mon papa et mon frère, ils vivent toujours et je les aime beaucoup. Voilà, j'étais pas avec eux à Noël, puisque c'est comme dans beaucoup de familles, c'est un Noël sur deux, famille, belle famille. Là, c'était belle famille Franche-Comté. L'année prochaine, ce sera Bretagne. Du coup, il y a un Noël décalé en janvier. Et donc, je retrouverai mon papa, mon frère, ma sœur, la famille. Ça va être super. J'y pense, mais tu as été invité au GP Explorer 3, dit MK Yaz. Attends, il y a un GP Explorer 3 qui est prévu ? C'est déjà annoncé ? On a déjà les dates ? Vraie question, hein. Alors, 1, ok. 2, ok. 3, prévu, annoncé, daté, invité déjà calé ? Non. Et même, je dis pas annoncé. Aribashi me dit nope. Ok. Oh. En plus, je pense pas que je serai invité. Pourquoi je serai invité au GP Explorer? Vieux machin comme moi, je pense qu'ils vont craindre que je fasse premier virage tout droit, quoi. Ah, MMG dit, je pense même pas qu'il y en aura. Pas de 3 prévus. Pourquoi? Attends, c'est un banger, c'est un énorme succès. C'est pas prévu, il y aura pas de GP Explorer 3. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'es basse? Pourtant, tu as fait Top Gear, voyons, dit Remake. Ouais, normalement, là, en début d'année, il y a un Top Gear avec moi dedans, version Villebrequin, qui va être diffusé. Vous allez voir, je suis le plus lent du circuit. Hein, limite, fenêtre baissée en train de saluer les vaches, quoi. Catastrophe. Trop chill, trop doux, maintenant, sur la route, quoi. Trop papa, quoi. Trop responsable, quoi. Pierre Fillon, l'organisateur du GP avec Squeezie, a dit que c'était possiblement dans les tuyaux avec de gros changements. Ça pourrait être dans 2 ans, par exemple, dit French Yu-Gi-Oh! On parle du GP Explorer 3. Ok. Squeezie a eu tellement d'emmerdes, de mauvais commentaires que ça le chauffe. Ah ouais? Pourtant, moi j'étais sur place. Je trouvais que c'était bien. Hein, il y avait une pure ambiance, quoi. Trop de stress, trop de risques, trop galère, leur gars, me dit Doudi. Ah, c'est dommage. Sur quelle plateforme sera diffusé Top Gear version Villebrequin? Le nom de Maxou, bah notamment sur RMC, la chaîne, quoi. RMC Découverte, je crois. Peut-être aussi sur Internet, sur les réseaux, mais voilà. Bah voilà, c'est ce que me dit MMG, qui est modérateur de cette chaîne, et qui est passionné de sport mécanique, RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Ça, c'est de la réponse précise. On est bien sur une chaîne d'info. Hein. Plus de subs, c'est parti. Antoine Twitch, merci pour le 13e mois. Hello Rookie, merci pour le 15e mois. Et après, sur Prime Vidéo. Ok, RMC Découverte et ensuite Prime Vidéo pour Top Gear, me dit Kokimi qui est trop picams. Ouais. Ouais. Salut Apox. Alors, tu es la deuxième personne à m'en parler, CO39. Du coup, ça m'intrigue. CO39 qui nous dit pourquoi j'ai des messages chez tout le matin. Ok. C'est du boulot. Un autre boulot. Quelqu'un me dit. En parlant de Tetris. CO39, avez-vous vu la vidéo de la première personne à finir Tetris? Il s'agit d'un ado américain de 13 ans et la vidéo est folle. Alors, tu es la deuxième personne à m'en parler ce matin. Ok, let's go. Alors, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, on y va. Tetris. Ok. Il y a un article dans Le Monde. Ok. Là, il n'y a rien, c'est normal. Il y a un... boum. Article publié ce matin, au petit matin, 5h39. Un adolescent américain vient à bout du jeu vidéo Tetris pour la première fois. Donc sur console NES, sur la console de Nintendo, Willis Gibson, c'est le jeune homme qu'on voit ici, est devenu le premier humain à battre ce jeu de puzzle hautement addictif sur la console de Nintendo. Et quand la machine n'arrive plus à suivre, l'écran se fige soudainement. Attends, il y a la vidéo. Génial. Un événement dans le monde du jeu vidéo, ok. Après avoir obsédé des générations entières de joueurs pendant 40 ans... Pardon, je suis un peu rhumé. La version classique du jeu Tetris sur Nintendo Entertainment System, donc la NES, a finalement trouvé plus fort qu'elle un ado américain âgé de 13 ans. Donc, il est devenu le 21 décembre, officiellement, le premier humain, ce jeune homme Willis Gibson, à parvenir au bout de 7 versions, hein, pour être précis, où le joueur doit emboîter des blocs qui tombent de plus en plus rapidement, donc je pense que vous connaissez Tetris, pour former des lignes complètes et les faire disparaître. L'exploit n'avait jusqu'ici été réalisé que... par une intelligence artificielle. Alors, quelqu'un disait, mais normalement, il n'y a pas de fin. Hein, Joe Panda se fait des pancakes, mais ce n'est pas infini, Tetris. Alors, en principe, l'adaptation célèbre du jeu de puzzle, hein, c'est un russe, hein, c'est un ingénieur soviétique dans les années 80 qui l'a inventé, n'a pas vraiment de fin, hein. Lorsque la machine n'arrive plus à suivre, eh bien, l'écran se fige soudainement. C'est ce qui est arrivé à l'ado Blue Scooty, c'est son pseudo de gamer. Moi, c'est The Mister CH. Lorsqu'il atteint le niveau 157 après 38 minutes d'effort. Ouais. Oh mon Dieu, s'exclame le jeune homme lorsque le jeu s'arrête dans une vidéo de sa partie publiée sur YouTube. Je ne sens plus mes doigts, souffle-t-il, submergé par l'émotion. On va aller voir la vidéo. YouTube. Elle fait combien de vidéos? Elle fait 42 minutes du coup. Ah oui. D'accord, elle fait 42 minutes. Bon ben, let's go alors. En deux minutes. On va les regarder, hein, bien sûr. Hein. 42 minutes. Va à la fin direct. Non, non, non. Ah bah non, je vais tout regarder. On est sur Twitch, hein. On a le temps, hein. Je vais faire un truc, puis vous m'appelez quand on approche du... de la fin de la vidéo. Bien joué ça. Non, on va avancer évidemment. C'était une blague pourrie. Donc là, il joue depuis presque 30 minutes là déjà. Ça s'est accéléré, hein, vous avez vu? Comment il fait pour... à la vitesse où ça tombe... Attendez, vous avez vu? Attends, c'est fou quand même. Ah merde, vous n'avez pas la tête du joueur. Attendez, je me vire moi. Hop là. Pardon. C'est dingue, c'est dingue. C'est quoi du rolling? Vous êtes plusieurs à me dire, c'est... Ah, il regarde la case next. Ok. Ok. Il regarde que la prochaine pièce et il a le pattern dans la tête, me dit Dracolous. Il utilise ses deux mains, l'article explique, avec un pouce il fait bas et gauche, et avec l'autre haut et droite. Il tape derrière sa manette pour appuyer rapidement. C'est incroyable ce qu'il fait. Il y a des techniques qui consistent à pianoter en dessous de la manette pour que les boutons appuient sur les doigts. Comme le dit Fromp, punaise. C'est beau, hein. C'est beau. C'est hypnotisant. Comme le dit Yaz. Un garçon qui a un grand avenir dans le rangement de valises, me dit Mattaché. Le score est bloqué, vous avez vu? On est à presque 1 million. 999 999. C'est fou, hein. On avance. Level 67. Oui, level 67. Level 97. Level 97. Hop, je vous montre. 97. C'est beau, non? T'as la concentration de ce gamin, quoi. Il respire, vous entendez? Ah, c'est pas le level d'ailleurs, c'est autre chose. Level EA, c'est quoi ça?
Oh my grave.
C'est génial.
Please crash.
C'est incroyable. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah mais c'est magnifique.
I can't feel my fingers. Oh my god.
C'est trop chaud, hein? Il a cassé la machine, quoi. Le premier au monde. Il a dépassé la capacité de la machine à compter, hein, Yo le potier. Comme le dit MMGCTF, paraphrasant un célèbre commentateur de football, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin, le plus tard possible, mais on peut! Elle est belle cette séquence.
I don't know.
On va remercier le raid de Martin Martin dans un instant. Martin, Amine Martin, on est en train de voir le premier humain au monde à avoir battu Tetris, à avoir bloqué Tetris. Tellement il a été rapide.
Oh,
14 ans. Un jeune américain. Vous en parliez avec Martin Martin, justement. C'est incroyable. C'est beau, hein? Cette émotion est très belle. Oui, c'est très récent. Ça s'est passé en décembre, je crois. Mais les médias en parlent que maintenant. C'est beau, hein? T'as une espèce de... de plénitude qu'il a atteint. C'est des moments rares dans une vie, ça, hein? Un moment. Vous vous rendez compte, c'est le premier humain à réussir ce truc? Alors que le jeu s'apprête à fêter ses 40 ans, me dit Sadie Live. Ah, premier humain filmé, oui, c'est vrai. Et c'est célébré par le chien de la maison. Ça, c'est beau aussi.
I can't freaking do this. I'm so...
Ah, il y a maman qui arrive. Waouh! Ok, et donc on était en train de lire un article du Monde à ce propos. Hop, on y revient, qui est là. Donc, ça n'a jamais été fait par un humain auparavant, en tout cas jamais de façon enregistrée, bien sûr. Hein. Peut-être que les gens qui disent « Ah, mais moi je l'ai fait aussi !» Je rebouge un peu ma caméra. A souligné auprès du New York Times, le président du championnat du monde de Tetris, qui s'appelle Vince Clemente, et qui dit même que c'est quelque chose que tout le monde pensait impossible il y a quelques années. Donc ça veut dire que quand même, peut-être que c'est même le premier humain tout court, et que personne ne l'a fait avant lui, même si ça n'a pas été enregistré, puisque le championnat du monde de, le président du championnat du monde de Tetris semble dire qu'il y a encore peu de temps, on pensait même que c'était impossible. Donc ça veut dire que personne ne s'en était vraiment vanté, finalement. Merci Acidine pour le très gentil message, c'est adorable. Pendant longtemps, le niveau 29 a été considéré comme la limite de Tetris. lorsque le jeu devient si rapide que l'humain n'arrive plus à réagir assez vite. Mais depuis quelques années, une nouvelle génération de joueurs a donc repoussé les frontières du possible en adoptant la technique du rolling. Et vous m'en parliez dans le chat. Qui réinvente la manière d'utiliser la manette de la console NES, donc. Elle permet d'utiliser les doigts, tous les doigts, plutôt que juste un ou deux, et d'augmenter considérablement la fréquence des pressions. Voilà. Willis Gibson, le jeune homme qu'on vient de voir, a donc utilisé ce procédé pour établir son record. Exploit largement salué par la communauté des gamers. Même la directrice générale de la Tetris Company a félicité le jeune joueur. Incroyable. Jeu d'origine russe, hein, soviétique, à la base. Incroyable. Eh bien, merci à vous, parce que c'est le chat qui m'en a parlé de cette histoire ce matin. Pas mal, hein? Pas mal. Merci. Pardon, les poumons un peu irrités en ce moment. Merci à Martin Martin, notre DJ préféré qui nous arrête ce matin. Si vous cherchez une ambiance chill, de bonne humeur, de détente, des bonnes vibes le matin, et pas seulement le matin, allez voir cette chaîne Martin Martin M2X, meilleure chaîne de musique de Twitch français. Mumured, encore merci pour le gentil message. Voilà, vous avez la chaîne de Martin Martin dans le chat grâce au Modo, que je salue. Oh, vous êtes tellement nombreux les Modos. Merci à vous, vraiment. Broubou06, Clamakin, Francis, French Guillaume, Gonalf Listari, Julo, MMG7F, Nightbot, bien sûr, Sarah. On t'embrasse, on est très heureux que tu sois avec nous, Sarah Molly et Mathieu de la chaîne YouTube où on poste tous les streams ici. N'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch, activer les notifications, à suivre aussi. Je vais prendre un petit peu de spray là parce que c'est dur. Oh, j'espère que ça va vite partir cette inflammation des poumons là. Je reviens. Arrêtez de vous pousser, de vous tousser dans les oreilles. Dix jours, quinze jours que ça dure, mais. C'est chiant. C'est pas, je suis pas malade. Juste les bronches super irritées. Je prends des trucs. Pourtant, ça aurait dû passer. Bon, ça va finir par passer. C'est moins fort qu'il y a quelques jours. Mais ça traînasse un petit peu. Donc, je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube où je poste tous mes replays de stream. Et c'est gratuit. Ça peut durer plusieurs semaines, me dit Aloïs. J'ai eu ça 2 mois, Samuel. Ça finit par passer. Me dit Izukiel. Bon, bah voilà. Ok. Fuis Paris, bah oui, je sais. Ouais. Comme toi, ça fait un mois et demi, pour ma part, que je cohabite avec la Vento. Pourquoi on a ça tous, là? Pourquoi on a ça? Particule fine, me dit Esquil. Same chose, same pour 2 semaines pour Dérominou. Covid long pour Elia. Parce qu'on se le refile. C'est juste l'hiver, me dit Elé. Je vis à Paris, je ne tousse pas, me dit Nitram Téviloge. Pour l'instant. Saint Mathieu et Noël et Nouvel An, je suis en campagne en Suisse, me dit Morzon. Donc c'est pas forcément la pollution du coup. J'étais peut-être béni dans la Seine pour ma tâche. Coup de froid mal soigné. Non, j'ai pas eu le coup de froid, moi. Pas forcément la pollution. Regardez, Storm nous parle de sa copine qui traîne ça depuis 3 mois et ne vit pas à Paris. Ouais. Peut-être qu'il faut fumer plus, propose Benny Kivis. Ericite, tu n'as pas raté le sommaire, on est très en retard. On a fait une longue introduction et puis surtout on est allé voir Tetris, le jeune homme de 14 ans qui a réussi à battre Tetris. Où tu as mangé des huîtres normandes, peut-être. Ok. Ok. Non, c'était bien d'avoir fait ce petit détour par Tetris. Eh, Lélé, vous avez raison, d'ailleurs. Et si on faisait un petit sommaire, hein, je vous dis ce qu'il y a dans l'actualité ce matin, comme ça, ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures avec nous, 2 heures, 2 heures et demie, eh bien, vous avez quand même l'essentiel de l'actualité. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt? Peut-être que tu vas juste mourir parce que tu es vieux, me dit Artaruk. Ouais. Putain, vous êtes dur, hein, quand même. C'est parti pour le sommaire? Allez, let's go. Alors, au début, je me suis dit, bah, je vais pas leur parler des inondations. Les inondations, bon ben, c'est triste, c'est tragique. Bon là, je crois pas qu'il y ait de victimes, mais bon, on est dans le registre du fait divers. Le fait que le Pas-de-Calais soit à nouveau sous les eaux et qu'il y ait encore des rivières qui débordent et que des habitants se retrouvent les pieds dans l'eau et parfois sinistrés. Je me suis dit, bon... Puis après, je me suis dit, ah, quand même, c'est la deuxième fois en moins de deux mois pour le Pas-de-Calais. Il y a des habitants, là, c'est la troisième fois en quelques semaines qu'ils voient leurs habitations envahies par les eaux. Et puis, se pose la question des changements climatiques, quand même. Donc, j'ai lu ça avec un peu plus d'attention. Dossier dans le Parisien, article dans Libération, dossier dans l'Humanité. Et finalement, je me suis dit, si, il faut en parler. Il faut en parler. La malédiction du Pas-de-Calais, c'est la une du Parisien. Tiens, je l'ai mis deux fois. On va en supprimer une. Hop. Voilà. Le Parisien est allé voir des habitants de la région pour nous expliquer ce qu'ils vivent. C'est devenu l'enfer, disent certains. Donc, c'est chaud quand même. Voilà. Donc, pensez pour les habitants de la région. Donc, rien que pour ça, il fallait en parler. Et puis, plusieurs de vos journaux se posent la question. Est-ce qu'il y a un lien avec les changements climatiques? Eh ben, je vais spoiler. Hein. Je vais vous dire. Oui. Ouais, il y a un lien. Ce genre d'épisode, en fait, va se multiplier. Voilà. La parole dans Libération à un prévisionniste de Météo France, voilà, qui s'appelle François Gourand, qui nous explique à la fois que c'est un phénomène météo exceptionnel, mais que ce phénomène exceptionnel est amené, pour les raisons qu'on va expliquer ce matin, à se reproduire de plus en plus souvent. Et du coup, l'humanité nous dit, il serait temps de se rendre compte que ouais, les changements climatiques, c'est là, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Et que les premiers réfugiés climatiques, ils vont pas venir de l'étranger, ça va être d'abord chez nous, dans certaines régions. Bientôt, des réfugiés climatiques se posent la question, l'humanité. L'humanité qui cite notamment un rapport, une étude publiée en novembre de chercheurs du CNRS, qui justement souligne que y a un lien entre ces événements et les changements climatiques. Et je me suis dit, ok, on va en parler. Waterworld, Kevin Costner avait donc raison, dit exutoire. Waterworld, faut avoir la ref, mais c'est un vieux film qui n'était pas topissime d'ailleurs. Voilà. On verra. C'est assez intéressant, puis c'est très très clair, vous verrez. Alors, ça c'est un exemple concret. Merci triple bonus pour le quatrième mois d'abonnement. Meilleurs vœux à toi, bonne année. Un exemple concret de ce que je fais ici, c'est-à-dire que sur une actu donnée, parfois je préfère attendre une heure, deux heures, une journée, deux jours, pour attendre une info plus claire, un article de qualité sur un sujet, surtout quand c'est un sujet sensible. En ce moment, par exemple, je surveille deux actus sur le feu. Buenos dias, Eden Blaster. Je vais te répondre sur la caméra, je n'ai pas oublié ton message. Il y a deux actus que je surveille qui font beaucoup de bruit sur Internet. L'affaire Epstein, le fameux dossier, et l'affaire Guerlain, la fameuse crème, par exemple, là, ça pop, ça monte très très fort sur Internet, sur les réseaux, mais j'attends d'avoir des articles de fond de qualité pour vous en parler, pour pas vous raconter de la merde. Hier, deux articles sur la baisse du nombre de féminicides en France, j'étais pas convaincu par ces articles, je les trouvais pas assez clairs. Et je me suis dit, on va attendre un petit peu. Et l'article clair, carré, me semble-t-il, sur cette baisse statistique du nombre de féminicides en France, je l'ai trouvé dans La Croix ce matin. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, j'ai trouvé que l'article était plutôt bien fait. Je vous le propose ce matin. C'est pas de l'actu, c'est un vieux truc. Ça s'est passé en 1972. Hein, c'est le crash d'un avion dans les Andes en 1972. Il y avait une équipe de rugby dedans, notamment. Un avion qui s'est crashé dans la cordillère des Andes qui faisait le voyage entre l'Uruguay et le Chili. Hein, et c'est un crash qui est très connu parce que les passagers survivants ont fini par bouffer les autres. Bon, pas vivants. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont nourris pour survivre des corps des gens qui étaient morts. Voilà. Cannibales malgré eux. Voilà. Et pour qu'on en parle, parce qu'il y a un grand film espagnol, très bien, paraît-il, qui pourrait même être nommé aux Oscars, qui arrive sur Netflix aujourd'hui. Et du coup, Le Parisien consacre une pleine page à l'histoire, mais aussi au film, parce qu'il paraît que le film est vraiment très bien fait. Il n'est pas dans le provocateur, il n'est pas dans le gore, il est dans l'espèce de tentative de compréhension de ce qui a pu amener des hommes, des femmes aussi peut-être, je ne sais pas, à décider ensemble de manger ceux qui étaient morts. Voilà. Il y a déjà eu, des livres, il y a déjà eu un film, mais celui-ci est salué. Salué parce que la dimension artistique du film est manifestement très, très réussie, quoi. Donc c'est ça l'actualité de cette histoire. Et du coup, je me suis dit, tiens, ben, je vais leur poser la question. Hein, tout à l'heure, je vous ferai un petit sondage parce que c'est ce qui m'a aussi intrigué dans cette histoire. Et je vous dirai, mais alors, si vous aviez été dans cet avion, est-ce que vous auriez dit, ben, allez, on va boulotter les morts, quoi. Hein. Mange tes morts, c'est un truc qu'on entend parfois, ça. Entre des gens en colère. Voilà. Est-ce que vous l'auriez fait? Je vous poserai la question. On fera un petit sondage. Le film s'appelle Le Cercle des Neiges, ça arrive aujourd'hui sur Netflix. Mange tes morts. Les Jeux Olympiques, bon, on va en parler un petit peu, hein, parce que ça se rapproche doucement. Est-ce que ce sera sympa? Est-ce que ce sera nul? Est-ce que ce sera réussi? Est-ce que ce sera une grande fête? Libération. Oh là là. Libération se félicite que Snoop Dogg, eh bien, va commenter pour la télé américaine les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, je sais pas. Manifestement, ça le hype. Et du coup, ça hype Libé. Que Snoop Dogg, le rappeur, donc, soit hypé par les Jeux Olympiques. Et Libération, qui a un jour ou deux, a fait une en mode ah, et finalement, si les Jeux de Paris, tant critiqués par certains, qui inquiètent tant sur certains sujets, etc., finalement, et s'ils étaient réussis, ces Jeux, voilà, les médias commencent à se demander si finalement ça va pas être plutôt réussi. Pourquoi Snoop? Ben, je sais pas, idiot. Il a fait un communiqué, il a même fait une vidéo, on va aller voir. Je crois même qu'il parle en français, Snoop, dans la petite vidéo. Donc on ira voir ça. En tout cas, Libération trouve que c'est une très très bonne nouvelle que Snoop s'intéresse aux Jeux Olympiques de Paris. Il y a Tsubasa qui me dit que Snoop a déjà commenté les JO de Tokyo. Peut-être qu'il s'intéresse aussi au sport. Non ? Ah ah ! Notamment les épreuves d'équitation. Ah oui, ça m'a pris quelque chose. Itino me dit qu'il avait déjà commenté les épreuves d'équitation au dernier jeu. Il kiffe regarder le sport, Snoop. Ben, on a la réponse du chat. Voilà. Ça, c'est... L'article n'en parle pas d'ailleurs. Ok. Hmm. Smoke every day. Smoke weed every day, c'est un message écolo, me dit Joffa. J'ai la ref. C'est aussi un grand supporter de basket des Lakers, me dit Tsubasa. Par contre, Snoop ne fait aucune épreuve, problème avec les contrôles antidopage, me dit Gandalf History. J'ai la ref. Je crois qu'on peut valider la blague de Poum, même sur ce sujet grave. Depardieu aussi commente les épreuves d'équitation, mais on n'a pas envie de l'écouter. Je valide. Donc on lira cet article sur Snoop. Et puis, comme il n'est pas impossible que, d'une manière ou d'une autre, moi aussi, je travaille pendant la durée des Jeux Olympiques pour couvrir les Jeux, eh bien, j'essaie de m'intéresser de plus en plus au sujet pour un peu booster ma culture sportive et ma culture olympique. Et j'ai une très belle double page dans la croix sur les nouveaux sports qui vont être présents là aux Jeux Olympiques de Paris. Je pense notamment au skate, au skateboard, au surf, également au breakdance. Voilà. Et pourquoi ? Merci Zelkron pour ce deuxième mois d'abonnement. Merci Sadine Live pour le 20e mois d'abonnement, j'avais pas vu. Merci, bonne année à toi, bonne année à tous les deux. Et pourquoi ces sports et cette culture urbaine arrivent dans les Jeux Olympiques ? Eh bien, ce sont deux pages extrêmement claires sur ce phénomène. Pourquoi ? Ouais. Quelle est l'intention, la philosophie, peut-être séduire des nouveaux publics. Voilà, c'est vachement bien expliqué par la croix. Du surf à Paris, plutôt du surf à Tahiti. Toméo, je vois que tu es encore moins au courant que moi de l'actualité des Jeux. Non, ce sera à Tahiti. Enfin, il y a eu des polémiques sur le site, mais a priori, ce sera à Tahiti. Donc en France, mais pas à Paris. Sur la Seine, c'est compliqué le surf. On me dit que le skate, c'est peut-être la deuxième fois. Ouais. Le skate, c'est la deuxième fois ? On va vérifier. J'ai plus l'info. Par contre, le breakdance, c'est la première fois et ce ne sera pas au prochain jeu. Parce que ce n'est pas parce qu'un sport devient olympique, JO, qu'il le reste en fait. Ça dépend de chaque Olympiade. Et on sait déjà que la prochaine Olympiade, je ne sais plus où c'était, eh bien, il n'y aura plus le breakdance. Voilà. Ça pourrait revenir à Brisbane le coup d'après. Voilà. Oui, à Tokyo. Ok. On me dit que c'était à Tokyo. Ouais, vous avez raison. Le skate était déjà olympique à Tokyo en 2021 en tant que nouveau sport. Donc, c'est la deuxième fois pour le skate. Voilà. Le karaté a sauté. Ouais, très bon exemple de Lucky Luciano qui est évoqué d'ailleurs par le dossier de la Croix. Le karaté a été olympique et ne l'est plus. Voilà. Tout à fait. Tu vas bosser sur quoi autour des jeux, me demande Mademoiselle Bébé. Je ne peux pas vous dire pour l'instant, c'est un secret. Je n'ai pas signé encore, mais normalement, je devrais être mobilisé pendant toute la durée des jeux. C'est pour ça que je vais me mettre un petit peu à bosser sur le sujet pour pas raconter trop de conneries. Voilà. Tel que 071, merci beaucoup pour le 29e mois d'abonnement. Donc, on lira ce dossier dans la croix, vachement intéressant. Le karaté, alors qu'on a un champion du monde, c'est n'importe quoi, dit Astro Boy, malgré une médaille d'or française au karaté, me dit Zasma et 5. Alors, je vais vous dire une info incroyable. C'est-à-dire que le monde ne dépend pas, c'est dommage, hein, mais le monde, la marche du monde, et notamment la marche du monde sportif, ne dépend pas uniquement de la France et du bon vouloir des Français. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est bien d'être fier de son pays, hein. Mais ce n'est pas le comité olympique français qui décide déjà. Hein, je pense que c'est au niveau du CIO que ça se passe, quoi. C'est pas Interville, voilà, comme dit Roland, très bien. Alors c'est c'est bien. Beatle 21 s'interroge, est-ce qu'il y a d'autres pays que la France dans le monde? Alors, pas beaucoup, mais oui, voilà. Les pauvres étrangers qui ne savent pas qu'on est les meilleurs, regrette Exutoire. C'est inadmissible, dit Daniel. Hein, bah oui. Ouais. D'ailleurs, moi, je pose la question. Est-ce que quelque part, la marche du monde ne devrait pas être décidée par la France? Je pose la question. Est-ce que nous ne devrions pas donner le tempo? Je pose la question. Hein, le monde irait mieux, comme dit Vive the Globe. Voilà. Je pose la question. J'ouvre le débat. Exactement. Très joli papier dans le Parisien, vachement intéressant, sur le succès des humoristes en France. Ça cartonne comme jamais. Les salles sont prises d'assaut, les spectacles des humoristes sont prises d'assaut, parfois avec un an d'avance. C'est folie. Alors ça tient peut-être un petit peu au contexte général, c'est un peu tristoun en ce moment, l'actualité internationale, tout ça. Le stress, l'inflation, la crise sanitaire il y a quelques temps. Et donc les gens manifestement ont envie de se changer les idées, ou alors on a aussi une nouvelle génération qui plaît. Voilà. En tout cas, ça cartonne et on a un papier très intéressant qui explique les ressorts du succès aujourd'hui des humoristes en France. Les gens veulent rire, comme le dit Twister Art. Exactement. Paul Mirabel complète jusqu'à la fin 2026, me dit Itzino. Voilà, ça fonctionne. On retrouve l'ami Arnaud de sa mère ici, là, vous voyez, qu'on aime bien, qu'on reçoit régulièrement sur cette chaîne. Avec un autre homme qui nous fait rire, qui est Monsieur Poulpe également. Je n'aime pas rire, dit Baka French Ad. Voilà. Le Caplain, trop content pour le Caplain, souvent trop sous-coté, me dit Luchos. Ouais. Ouais. Rire rallonge l'espérance de vie, paraît-il. Je pose la question. Arnaud de sa mère, qui par ailleurs est un streamer. Ouais. Je pose la question, j'ouvre le débat. Est-ce que rire augmente l'espérance de vie? Mais répondez-moi. Je pose la question, excusez-moi. Et puis on finira avec l'équipe. Comme je suis en année sportive, j'ai repris le sport, et puis bon, vous l'avez compris, je vais peut-être bosser un petit peu sur les Jeux Olympiques. Je me suis réabonné à l'équipe. Je l'avais fait un petit peu en douce, mais ces derniers mois, je ne vous lisais plus trop l'équipe. Donc, je me suis réabonné à l'équipe, pas pour vous dire que le PSG a remporté le trophée des champions 2-0 face à Toulouse, je pense que vous le savez déjà. Non, pour vous parler de cette pleine page sur la Carmine Corp. Voilà. Dans l'équipe aujourd'hui, article de Quentin, Col de Fille et Paul Arrivé. Voilà. Du renfort pour la Carmine. Une pleine page sur le fait que la Carmine a un nouveau sponsor. C'est tout. Il y a quelques années, on vous aurait dit, il y a une pleine page dans l'équipe sur le fait que la Carmine Corp a un nouveau sponsor qui est une banque qui s'appelle le CIC. Une pleine page, vous m'auriez dit non, ça n'intéresse personne, Samuel. Les vieux journaux, ils ne s'intéressent pas à tout ça, là. Une pleine page. Et ça, en soi, c'est pas. Mais ça montre le regard de plus en plus intéressé des médias traditionnels sur le jeu vidéo, sur le monde de l'e-sport. Et ça, c'est très symptomatique. Et l'article est plutôt bien fait. Voilà. Donc, on va se pencher là-dessus.
Voilà. Paul Arrivé, c'est un grand passionné d'e-sport. On l'a reçu dans l'hebdo Étienne, d'ailleurs, ici, il y a quelques mois. Le GOAT de l'e-sport à l'équipe, grand GG à lui et à ses équipes, nous dit Stifler Sigma dans le chat. Voilà. Et puis, ça montre aussi que, au-delà de l'intérêt des médias traditionnels pour le gaming et l'e-sport, que bien, le monde de l'entreprise, lui, l'a très bien compris. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent dans l'univers du monde du jeu vidéo par le biais de sponsoring, de parrainage, de soutien. Donc, une grande banque comme le CIC décide de mettre des sous sur la CACORP, par exemple. Ça montre aussi que, plus peut-être que les médias, certaines entreprises ont compris que c'était un marché de plus en plus important. Bon, et on lira ça, je trouve ça vachement intéressant. Puis si vous êtes gentil, on fera peut-être un petit horoscope. Voilà les amis, ça c'est pour l'essentiel, c'est pour le sommaire. Et maintenant, on va prendre le temps de lire tous ces articles et de s'interroger, de s'informer, d'échanger ensemble. Voilà. Mais vous avez l'essentiel. Johan, 00, merci pour le deuxième mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. VDMJM, merci pour le sixième mois d'abonnement. Oui, il y aura plus Smash Bros et Trackmania. La CACORP s'est retirée de deux jeux. L'article en parle, mais dit que c'est pas grave. Voilà. Serein mais révolté, dit j'aime bien l'e-sport, mais parler des sponsors, ça ressemble de plus en plus à de la pub. Non, ça montre juste que les enjeux économiques sont en train d'exploser, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Plus d'argent, ça veut dire plus de moyens pour notamment une équipe française comme la CACORP pour se développer à l'international et briller dans les grandes compétitions. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Tu parles pas du séisme au Japon, il fallait être là avant-hier, Dark Simulator. Replay de la revue de presse il y a deux jours. Mon rêve que CIC sorte des CB, des cartes bleues, Carmine, Alex Lyon. C'est le cas. C'est dans l'article. Ils vont sortir des cartes de crédit siglées Carmine Corp. C'est dans l'article. Je vais vous en parler. Donc rêve réalisé. Salut Sam, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas regardé la revue de presse. Est-ce que tu continues de parler de la Palestine hier? Un gros morceau de la revue de presse, on a parlé du Moyen-Orient, ouais, hier. Carte standard ou gold? Oh, MMG, je sais pas. Hein. Elles ne sont pas sorties encore. C'est fou, ça. Hein. J'ai pas réponse à tout. Mauvais perdant. C'est quoi ce pseudo qui est tout mignon? Merci pour le troisième mois d'abonnement. Itino, que j'ai lu à plusieurs reprises dans le chat ce matin, envoie des bits. Merci à toi. Mauvais perdant. Je suis sûr que non. À quand une CB, Samuel Etienne avec Valorant? Ok. Oh, j'avais pas vu ton message, Itino. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Bon. Tu n'es pas conseiller bancaire CIC? Non, Julio. Julio. Julio Iglesias? Monsieur Étienne, bien le bonjour. Appelle-moi Sam. Xerox. Bon, c'est parti, on a fait le sommaire. On a pris du temps aussi sur cette histoire de Tetris et ce jeune homme de 14 ans qui a battu Tetris. Et maintenant, on va lire tous ces articles dont je vous ai parlé pendant le sommaire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que j'ai votre go? C'est bien Julio Iglesias, je savais. Eh bien, c'est parti. Donc là, la CACORP, c'est pour le dessert. On commence par les intempéries. Dans le Pas-de-Calais, pensez ce matin, ému pour tous les gens là, qui sont sinistrés dans la région, notamment autour de la rivière le redoublé. La malédiction du Pas-de-Calais, carrément, c'est la une du Parisien. Pour la deuxième fois en moins de deux mois, jusqu'à trois fois dans certaines zones. Hein. Le Pas-de-Calais s'est réveillé les pieds dans l'eau après de nouvelles précipitations hors normes, on va les qualifier ces précipitations. Partagé entre colère et désarroi, certains riverains veulent quitter leur domicile. Il y a beaucoup de détresse hein, chez certains là. Une partie du Pas-de-Calais est encore réveillée, donc ce mercredi, les pieds dans l'eau. La pluie a provoqué d'importants dégâts, épuisés, stressés par les inondations à répétition. Les riverains veulent partir. Clamakin me dit jusqu'à 7-8 fois chez certaines habitations inondées ces dernières semaines. La précédente crue exceptionnelle de l'A, c'était en novembre. Donc là, c'est la rivière AA. Mais ce mercredi, le fleuve côtier a encore plus débordé. Dans les villages qu'il traverse, les mêmes paysages de désolation, carrément, les habitants sont partagés entre désarroi, fatalisme, colère. Le village de Vizernes, W-I-Z-R-N-E-S, est méconnaissable. Ça fait 3 mois en 2 mois, dit une habitante. Les agriculteurs sont lourdement impactés. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir le détail de tous les dégâts. Heureusement, il me semble qu'il n'y a pas eu de victimes. Pour ceux qui ont la ref, là, est-ce que c'est la rivière qui fait « Take on me » demande Silver Ghost, rêve de vieux, mais je valide. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi ce matin, c'est pour ça que je vous en parle, c'est est-ce que ce... Deux choses. Est-ce que ce désastre était évitable? Est-ce que c'est sinistre? Est-ce que c'est sinistré? Est-ce que c'était évitable? Est-ce que l'organisation, est-ce que les pouvoirs publics auraient pu prendre des mesures en amont? Des bassins de rétention, des murs, que sais-je, pour empêcher ça. Un. Deux, est-ce que les changements climatiques ont un lien avec cette histoire? Eh bien, c'est une question qu'on va se poser ce matin, et on va même, mieux que ça, y répondre. Tout le monde s'interroge, ce nouveau désastre aurait-il pu être évité pour une partie des habitants? Eh bien, la réponse est clairement oui. Cactus, merci beaucoup pour l'abonnement que tu offres à Force Rose. Mais alors, beaucoup d'habitants disent « on aurait pu faire des choses ». Gédor, pour témoigner, nous dit « je suis actuellement dans le Pas-de-Calais, pas de victimes, effectivement, mais beaucoup d'habitations et d'entreprises inondées, c'est l'horreur pour la famille ». Alors comment faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu construire des digues, on aurait pu construire davantage de bassins de rétention. 4 de ces infrastructures ont déjà d'ailleurs été bâties à Blandec, qui est une commune qui a été très touchée, depuis la précédente crue historique de 2002. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aurait pu être encore plus grave sans ces ouvrages. Tellement de monde dit ceci ou cela, mais c'est compliqué de lutter contre la nature, dit encore un autre habitant. Donc oui, on aurait pu faire sans doute plus de ces fameux ouvrages, des digues, de bassins de rétention, d'entretien des cours d'eau, des fossés aussi. C'est Antoine qui en parle dans le chat à l'instant. Il y a aussi un manque d'entretien des fossés, des cours d'eau par manque de moyens, sans parler des nouvelles constructions de bassins. Est-ce que je peux zoomer sur la carte? Bien sûr. Yaz me demande si je peux zoomer sur la carte. Voilà, on est dans le Pas-de-Calais. Ici, on a certaines des communes les plus touchées, comme Blandec. Ici, c'est là que vous voyez au milieu la rivière là, qui a beaucoup débordé. Voilà. Alors évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Est-ce qu'on aurait pu construire tous ces ouvrages? Est-ce qu'on aurait pu dépenser de l'argent? Nous dit Vieux Lama. Ben, la réponse, manifestement, a été non. Et on va en parler, d'ailleurs. On va en parler avec ce dossier de l'Humanité. Mais d'abord, je voulais vous lire une interview. Là, on a lu Le Parisien, dans Libération, d'un prévisionniste à Météo France, François Gourand, à qui Libération a posé cette question très très simple. Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre les changements climatiques et ce qui vient de se passer dans le Pas-de-Calais? Le premier réflexe, ce serait de dire, bah non, c'est juste des précipitations un peu exceptionnelles, c'est déjà arrivé dans le passé, bon, bah, c'est la faute à, pas de chance. Voilà. Eh bien, si, il y a un lien, et c'est ce que affirme ce prévisionniste qui analyse le lien entre les précipitations inédites dans le Pas-de-Calais et le dérèglement climatique. Le Pas-de-Calais, écrit Libération donc ce matin, de nouveau les pieds dans l'eau, alors que novembre avait apporté un déluge de pluie dans le département, la nouvelle année s'ouvre sous les mêmes auspices. Si des pluies régulières n'ont rien d'anormal, leur intensité ces derniers mois est record, et dépasse même largement une séquence historique qui avait été enregistrée lors de l'hiver 2000-2001. Question de Libération à ce prévisionniste. Ce cumul de précipitations aussi dense en quelques mois seulement est-il inédit? L'hiver 2000-2001 était effectivement une longue séquence pluvieuse, qui est d'ailleurs devenue la référence en matière de pluviométrie sur le nord du pays. Le prévisionniste nous donne un exemple. Du 15 octobre 2000 au 2 janvier 2001, il était tombé 422 mm de pluie dans le Pas-de-Calais. Actuellement, du 15 octobre au 2 janvier, on en est à 503 mm. Ça veut dire que le record de 2001 a été battu. Comment on peut expliquer cette situation ? Question de Libération. D'abord, il y a un contexte météorologique. Hein. Bon, bah, ça, on va dire, c'est la météo. C'est pas le changement climatique. Il faut pas confondre météo et climat. Hein, ça n'est pas la même chose. Un contexte météorologique qui apporte une succession de dépressions qui viennent de l'Atlantique Nord. Bon, ça, c'est du classique. La différence avec les années 2000, c'est que le climat est plus chaud et qu'il y a donc plus d'eau qui s'évapore. Les pluies qui tombent sont plus soutenues et cela favorise les records. Les travaux du GIEC, donc le GIEC, le groupe des experts sur le climat, sont très clairs. On s'attend à avoir des hivers plus pluvieux en moyenne sur le nord de l'Europe, dont fait évidemment partie le Pas-de-Calais. La situation actuelle est une tendance à laquelle on s'attend à l'avenir. Voilà. Il fait plus chaud, plus d'évaporation, des pluies plus soutenues sur l'hémisphère nord. Non, c'est pas l'humanité, c'est Libération. C'est Libération au bobo. L'Huma, ça arrive juste après mon chouchou. Putain, je parle comme... C'est Hanouna, là. Ça va pas du tout. Je vais vous appeler mes petits fanzous bientôt. Piège humain, salut les poilus, mamelot, standbys, merci pour le prêt. En quoi ces précipitations, question de Libération, au record, sont-elles liées au réchauffement climatique ? Le changement climatique perturbe le cycle de l'eau. Ça veut dire qu'il y a à la fois des sécheresses plus fréquentes, plus longues et plus intenses, et des séquences plus pluvieuses. Il y a les deux. L'un n'empêche pas l'autre, il ne faut pas les opposer. Et ces phénomènes ne se produisent pas dans les mêmes régions, c'est vachement clair. Dans le sud, Perpignan, plus largement les Pyrénées-Orientales, subissent une sécheresse dramatique et chronique depuis 2 ans maintenant. Si la météo apporte beaucoup de pluie dans le sud, là, du côté de Perpignan par exemple, il y aura un risque d'inondation, mais à cause des sols desséchés. Donc plus d'eau sur le nord, plus de sécheresse dans le sud, mais du coup ça peut provoquer des inondations dans les deux régions, mais pour des raisons différentes. Est-ce que la France est particulièrement à risque ? Question de Libération. La France a un climat très contrasté entre le nord et le sud, puisque le pays a aussi une influence méditerranéenne. Dans le sud, on s'attend donc à une diminution des cumuls de pluie en moyenne, ce qui n'empêchera pas des situations ponctuelles de fortes pluies. Et il y aura une augmentation hivernale en moyenne dans le nord, comme ce qu'on connaît dans le Pas-de-Calais. Là-bas, on peut désormais s'attendre à des hivers très pluvieux, si vous habitez la région, vous êtes prévenus, avec des cumuls de précipitations importants, les conséquences que l'on connaît, d'inondations, de débordements des cours d'eau. Les sols n'arrivent déjà pas à absorber les pluies d'aujourd'hui, ça ne risque pas de s'améliorer à l'avenir. Est-ce que l'adaptation dans ces territoires est suffisante à ces changements ? Question de Libération. Réponse extrêmement claire du météorologiste. Les prévisions climatiques sont claires. Malheureusement, elles se déroulent sous nos yeux depuis des années. Chacun est libre de juger si la réponse apportée est à la hauteur. Bon, je crois que vous avez la réponse à cette question. Ce prévisionniste Météo France nous dit, ben, écoutez, ce truc-là, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années que les scientifiques le disent. Si les mesures n'ont pas été prises structurelles ou locales, au plan global ou au plan très local, pour empêcher, limiter les conséquences pour les habitants, ben, c'est parce qu'on n'a pas voulu le faire. Voilà. Hein. Je pense que la question est vite répondue, comme dit MMGCTF à l'instant dans le chat. Mamelot, standby, merci encore pour le prêt. Ou merci même tout court, parce que je crois que je t'ai pas remercié. Voilà. Je vous lis un petit peu et puis je vous lis le dossier de l'Humanité qui va un peu plus loin sur ce même sujet. Merci Suncam pour le Prime. Oui, et Défécator officiel a raison. Et c'est ce dont va nous parler l'Humanité. Salut Défécator. Ces gens qui envisagent hélas de déménager, c'est ce qu'on pourra maintenant appeler des réfugiés climatiques. Et l'Humanité va nous dire dans un instant que les premiers réfugiés climatiques, en fait, en France, bah, ça va d'abord être des Français. Bientôt, on vivra comme dans Waterworld, j'ai hâte. Kevin Costner, vieil rêve de cinéma pour ceux qui l'ont. Les mentalités vont peut-être évoluer maintenant que les gens se rendent compte que le réchauffement climatique va nous toucher, et pas seulement quelques pays, dit Murphs. Ben c'est un petit peu l'espoir de l'humanité. Merci Alexandra, c'est bien noté. La première migration climatique sera en interne, nous dit le chat. Mao, le chat. Du coup, les migrants climatiques seront acceptés en France? J'ai pas bien saisi, demande Fatou. Très bonne question. Très bonne question. Alors, bientôt des réfugiés climatiques en France, mais venant de France, c'est la question que pose l'Humanité. Gros dossier, vous pourrez lire l'Humanité si ça vous intéresse. Je vous lis la fin de l'article et je vous lis l'éditorial de Laurent Mouloud. La série noire des inondations, écrivent Camille Bauer, Nadège Dubesset et Gaël de Sontis dans Luma ce matin. La série noire des inondations pose une question au-delà de l'immédiate remise en état des infrastructures et des habitations. Le lien entre ces phénomènes extrêmes et le réchauffement climatique ne fait pas de doute. Dans une étude qui a été publiée pas plus tard qu'en novembre, les chercheurs du CNRS notaient une hausse de 15 à 30% des précipitations liées à ce type d'événements ainsi que leur multiplication. Plus il se réchauffe, plus l'air à la surface de la Terre contient de la vapeur d'eau, c'est ce que disait Libération déjà, ce qui devrait conduire à des inondations de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Se contenter de réparer les dégâts risque de devenir un puits sans fond. On n'en prend pas la direction, regrette l'Humanité, puisque le ministère de l'Économie a obtenu la baisse de 250 à 220 millions d'euros des plans de prévention des risques d'inondation. Donc on n'augmente pas les moyens, on les diminue. Ces derniers avaient pourtant permis, selon un rapport publié mi-décembre par la Caisse centrale de réassurance, aux 10 105 communes qui en avaient bénéficié, de faire 2,2 milliards d'économies entre 1995 et 2018. Et ça, l'Humanité trouve que c'est une grosse connerie. C'est au 39 écrit dans le chat à l'instant. L'homme me surprend par sa capacité à oublier. On est désespérant. Lisons l'édito de Laurent Mouloud sur le sujet. Cette détresse que nous constatons ici dans le Pas-de-Calais doit interpeller tout un chacun. Les conséquences du changement climatique ne sont pas une vue de l'esprit, mais une réalité bien concrète. En France, chez nous, aujourd'hui, maintenant, l'intensification des pluies comme de la sécheresse des sols va donc se poursuivre. Et à l'évidence, les premiers réfugiés climatiques ne viendront pas de contrées du Pacifique ou d'Asie, mais bien des départements côtiers de l'Hexagone et des plaines alluviales, devenus inhabitables par la menace permanente de submersion. N'en doutons pas, l'enjeu économique et social en termes de bâti, d'agriculture ou encore de transport va être colossal pour des régions entières. Et face à cette urgence, écrit encore l'Humanité ce matin, les politiques d'adaptation devraient être une préoccupation majeure de nous tous, des citoyens, des pouvoirs publics. Elles restent malheureusement jusqu'ici d'une légèreté coupable. Symbole de cette désinvolture, le ministère de l'économie a donc décidé dans le cadre du prochain budget 2024 de baisser le montant du fonds dédié au fonds de prévention des risques d'inondation. Incompréhensible, dit l'Humanité, alors même que les PPRI ont permis une réduction des dommages de 20% sur la période 1995-2018 pour les communes concernées. Mi-janvier, le gouvernement présentera un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique. Espérons, dit l'UMA ce matin, qu'il saisira cette occasion pour sortir de son déni environnemental et au-delà des mots, prendra réellement en main le sort des naufragés du climat. Eh bien, sur un sujet qui est un sujet complexe, je trouve que l'éclairage ce matin du Parisien, de Libération et de l'Humanité, eh bien, et de qualité, et nous dit qu'au-delà de ce phénomène localisé, là dans le Pas-de-Calais, eh bien, il y a des enseignements au niveau national. Attiré. Je vous lis un petit peu et puis je vous parle des féminicides en France et du débat sur la baisse, parce qu'il y a un débat, la baisse du nombre de féminicides en France, la baisse statistique, ce qu'il faut en penser. Nat, gouverner c'est prévoir et l'État a clairement été défaillant sur le sujet, il va vraiment falloir s'atteler à s'adapter vraiment. Pardon. Ouais, ça va sûrement avoir des conséquences sur les primes d'assurance pour les assurances habitation. Spartacus, tu as raison. Merci Gédor, merci pour ton message. Excusez-moi, je vérifie un truc. Un message d'un ami dans le chat. Oui, oui, Hugo, mais tu n'as pas dû m'entendre tout à l'heure. Mais j'ai vu ton message sur la caméra. Je te file l'info au plus vite. Ouais, c'est pas faux. Itino dit ce qui me désole, c'est que les gens qui vont prendre le temps de lire ces articles sont déjà à la page niveau environnement et les climato-sceptiques et autres rebutés ne prendront jamais en considération tout ça. J'ai quand même le sentiment que la conscience générale est en train d'évoluer sur ces sujets quand même. Quand je vois, par rapport à il y a quelques années, les débats sur le sujet, j'ai l'impression que les climato-sceptiques, il n'y a encore pas si longtemps, avec voix au chapitre dans les médias traditionnels, on pouvait les entendre, on pouvait les lire. Aujourd'hui, à part sur Twitter, tu les entends quand même beaucoup moins, quoi. Hein, sauf erreur, quoi. Et Twitter, c'est pas la panacée en matière d'information, vous le savez, quoi. Merci, Seoud, pour le message. Un défécateur officiel nous dit, j'ai quand même lu des climato-sceptiques, osez écrire, elles sont où maintenant les sécheresses sur YouTube. Ouais. Ben oui, bien sûr. Ben, il pleut. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de sécheresse. Bien sûr. Twitter, ce sont des opinions, pas des informations, me dit Kroll. Bon, après, ça dépend. Il y a des gens qui émettent des informations de qualité sur les réseaux sociaux, puis d'autres pas, quoi. Ok. Désolé. Je trouve que les informations sur le réchauffement climatique sont encore trop absentes de la télé et des médias traditionnels, me dit Murphs. Alors, je suis salarié de France Télévisions, donc je le rappelle, mais j'aurais quand même salué l'initiative de France Télévisions il y a quelques mois, là, d'avoir changé un peu radicalement sa façon de faire les bulletins météo et d'associer la question de la météo et du climat dans les bulletins, avec une formation, avec une réflexion de fond des présentateurs, des présentatrices météo sur la question du climat. C'est ce qu'on appelle le journal Météo-Climat, effectivement. Donc ça, France Télévisions est assez novateur là-dessus. Caradoc me dit, France 2, on parle tous les jours dans la météo du soir. Donc ça, c'est assez récent. C'est plutôt à saluer, je pense. Et ça participe d'une prise de conscience générale, quoi. Bonne initiative, me dit Isino, à ce propos. Pour ceux qui me parlent de l'affaire Epstein, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce stream, mais vous n'êtes pas obligé d'arriver dès le début, bien sûr. C'est que j'attends des informations de qualité, des trucs carrés, des trucs vérifiés, des trucs un peu bossés. Et parfois, je préfère attendre quelques heures, un jour ou deux, pour avoir cette source de qualité, cet article de qualité sur une information, même si elle m'intéresse, pour pas vous raconter tout et n'importe quoi et pas faire comme certains médias, vous donner une info à 8h le matin et à 9h vous donner une information qui est exactement l'inverse, sans aucune excuse, en mode oh, bah, après tout c'est une information, c'est pas très très grave, quoi. Ici j'essaie de vérifier au maximum ce que je vous dis, donc là sur l'affaire Epstein où ça part dans tous les sens sur les réseaux, je préfère attendre quelques heures, voire un jour ou deux, et vous donner une information de qualité pour pas vous raconter n'importe quoi, et vous raconter le lendemain encore n'importe quoi, et le jour d'après encore n'importe quoi. Voilà. Là, par exemple, sur la question des chiffres des féminicides qui baissent ou qui baisseraient conditionnels, vous allez voir, il y a débat. En France, hier, il y avait des articles, je ne vous les ai pas lus, parce que je n'étais pas convaincu, je ne trouvais pas ça très, très clair. J'ai attendu 24 heures, qu'est-ce que ça fait 24 heures ? Et j'ai trouvé un article qui me semble plutôt mieux construit que ceux d'hier, dans La Croix, sur cette question, je vous le propose maintenant. Pourquoi les chiffres des féminicides baissent en France ? En 2023, ça ce sont les chiffres officiels du ministère de la Justice, hein, pour être tout à fait précis, 94 femmes, donc l'an dernier, ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint contre 118 l'année précédente, donc annonce mardi de la chancellerie, donc le ministère de la Justice. Les associations féministes recensent, elles, un bilan plus lourd. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a débat, il y a polémique. Mais globalement, quels que soient les chiffres qu'on prend, les chiffres sont à la baisse, souligne La Croix. C'est ce truc des différents chiffres hier qui n'était pas très très clair. Je trouve que La Croix le dit très bien. Quelqu'un me dit « 94 femmes de trop, je ne peux pas te donner tort, évidemment, évidemment. C'est donc le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a annoncé une baisse des féminicides en 2023. L'an dernier, 94 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, 20% de moins que l'année précédente où 118 femmes avaient été tuées. Le bilan communiqué par le ministre ne correspond pas toutefois au décompte des associations qui donnent d'autres chiffres. Le collectif Féminicide par compagnon ou ex a recensé 102 meurtres conjugaux, et non pas 94. L'association Hashtag Nous Toutes en a enregistré 134, et pas 94. Mais, écrit ce matin Lacroix, si les chiffres divergent, tous affichent une baisse, cette évolution est très loin d'être satisfaisante, d'ailleurs a reconnu le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Nous savons que lutter contre ce fléau prend du temps, mais l'engagement de la justice française pour endiguer les féminicides commence quand même à porter ses premiers fruits, dit le ministre. Depuis le Grenelle des violences conjugales en 2019, de réels progrès ont été accomplis. Il y a d'abord eu une prise de conscience qui a permis de mettre le sujet en avant, rappelle Anne-Cécile Malfer, qui est la présidente de la Fondation des Femmes. Donc là, c'est plus le gouvernement qui parle, c'est la présidente de la Fondation des Femmes qui dit « Aujourd'hui, c'est vrai, il y a plus en plus de victimes qui appellent, qui osent appeler le numéro d'urgence et qui portent plainte. » Concrètement, le Grenelle a débouché sur la mise en place ou le développement de plusieurs dispositifs de protection aussi, comme les bracelets anti-rapprochement qui éloignent l'agresseur, même si ça ne fonctionne pas toujours au top, ça produit quelques effets. En novembre 2022, 1022 bracelets anti-rapprochement étaient actifs sur l'ensemble du territoire. Selon la chancellerie, ces dispositifs ont permis 3634 interventions des forces de sécurité, bracelets qui ont connu quelques... Donc, et potentiellement autant de drames évités, bracelets qui ont connu quelques ratés, qui ont fait douter de leur efficacité, mais le garde des Sceaux mise désormais sur une nouvelle génération 5G pour une meilleure géolocalisation. On peut espérer que notre lutte sera encore plus efficace avec le déploiement de ces nouveaux bracelets et le téléphone grave danger. A souligné Éric Dupond-Moretti, ce dispositif qui alerte un service d'assistance 24 heures sur 24 était proposé à 4168 femmes en septembre 2023 pour mieux protéger les victimes. L'ordonnance de protection, ça c'est l'aspect justice, qui éloigne le conjoint violent, peut désormais être délivrée en 6 jours contre 45 auparavant. Près de 3600 injonctions de ce type, ordonnance de protection, ont été délivrées en 2022, 1392 seulement en 2017. Depuis le 1er janvier, les tribunaux, les cours d'appel sont par ailleurs dotés, ça c'est nouveau, d'un pôle, spécialisé dans les violences intrafamiliales pour coordonner les actions. En novembre dernier, le ministère soulignait une meilleure réactivité des institutions face au fléau des violences conjugales, rappelant que le nombre de condamnations pour violences au sein du couple était passé de 22 206 en 2017 à 49 616. En 2022. Si Anne-Cécile Melfer reconnaît ses progrès, quelques progrès, elle estime que beaucoup reste encore à faire pour prendre en charge les 244 300 victimes des violences conjugales en France. En chaque année, en septembre, sa fondation appelait le gouvernement à augmenter significativement les budgets. Je vous lis. Laura Lai témoigne. J'ai découvert à mes dépens que les chiffres sont manipulés. Quand j'ai subi des violences conjugales, malgré presque 10 jours d'ITT, ça n'est pas rien. Ça n'a pas été classé comme violence conjugale. On m'a dit à la gendarmerie que c'était une rupture un peu difficile et c'est tout, que je devais laisser tomber et penser à ma fille. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Mélissa, au contraire, je pense que tu peux partager ton témoignage si tu le souhaites. Je vous lis. Alors, l'exemple espagnol est un exemple intéressant qui est très souvent cité en France parce que l'Espagne, c'est un pays qui a eu de très graves problèmes de violences dites conjugales. et qui a mis des moyens ambitieux, voilà, avec d'excellents résultats. C'est Mademoiselle Bébé qui nous le rappelle. En Espagne, c'est 1 milliard de budget pour lutter contre les violences envers les femmes. On en est loin en France. C'est ce que réclament les associations d'ailleurs. C'est 1 milliard d'euros tous les ans pour lutter contre ce fléau. Merci Flouda pour le 28e mois. Oui, mon capitaine nous rappelle qu'il ne faut pas oublier que quand la police refuse de donner suite à une plainte, il est possible de saisir le procureur de la République directement, et ce, par courrier. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire. Alors, c'est une question que vous avez été plusieurs à soulever tout à l'heure et que Rennes répète. Est-ce qu'on peut vraiment parler de baisse ou c'est juste un effet post-année Covid avec les confinements, puis par la suite la hausse du télétravail, le nombre de violences avait augmenté. Est-ce que le retour à la normale n'est pas juste la raison de cette baisse? Je me pose cette même question en fait que toi. Je n'ai pas trouvé la réponse ce matin, mais c'est une vraie bonne question. Est-ce que cette amélioration statistique n'est pas aussi la fin des années Covid avec le confinement? Et on sait que les violences intrafamiliales sur les enfants aussi, hein, ont beaucoup augmenté pendant cette période. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, gardons en tête que pour l'année 2023, quelles que soient les sources, on constate effectivement une baisse des chiffres des féminicides. J'ai bien envie d'aller voir, par exemple, je sais pas, c'était quand la... Attends, on va essayer de trouver une courbe. Évolution, chiffre. Alors après, même si on trouve ces chiffres, on va dire oui, mais... Il y a aussi l'aspect déclaratif. Il y a pas si longtemps, il y a beaucoup de femmes qui osaient encore moins qu'aujourd'hui porter plainte. Et puis une société qui s'intéressait encore moins au sujet. Et donc il y avait sans doute une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides qui n'est tout simplement pas comptabilisé, quoi. Donc même en accédant à ces chiffres, vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, quoi. Merci Tino. Bonne journée. Je suis pas content de ce que je trouve dans mes recherches. Non. Non, non, ça c'est pas bon. Ah. Écoutez, j'ai un élément qui me semble intéressant sur le site d'une association qui s'appelle noustoutes.org. C'est une association que je connais, voilà, avec ces chiffres présentés par l'association. Donc, pour 2022, 147 femmes sont mortes en raison de leur genre. 2021, 113. Donc là, clairement, il semble qu'il y a quand même un effet crise sanitaire, là, en 2022. 113 en 2021, 102 en 2020. Voilà. Donc là, il y a une forte augmentation en 2022. En revanche, on était sur les chiffres plus élevés en 2019, 153, donc là, il n'y a pas le Covid, 123 en 2018, 143 en 2017, quoi. Si on prend les chiffres de 2023 que nous évoquions ce matin, les 94 morts évoqués par le ministère de la Justice, il semblerait quand même qu'on soit très en deçà des chiffres, par exemple, de 2016. Et donc, qu'il y a une confirmation d'une baisse tendancielle, du nombre de féminicides en France. Peut-être en raison d'une prise de conscience qui commence et des politiques qui ont été mises en œuvre, celles que j'évoquais dans l'article, quoi. Je ne suis pas d'accord avec Mélissa, mais Mélissa qui nous dit « Mélissa, je pense, en tant que femme transgenre, que mon avis serait automatiquement faussé car j'étais une autre personne avant et du coup, d'avoir été des deux côtés, je pense que mon avis n'est pas important malheureusement. » Évidemment que non, que ton avis est important et nous intéresse. Merci Pierre-Yves pour le 21e mois d'abonnement. Alors, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Alors, maintenant on va parler de cannibalisme. Maintenant, on va parler du fait de se boulotter, de se bouffer, de se grignoter, de se déguster les uns les autres. Comme le dit Bébou Saturne dans le chat, miam, miam, exactement. Je vais vous poser une question, on va faire un sondage ce matin. Est-ce que pour survivre, vous seriez prêt à vous boulotter, ou plutôt boulotter le voisin ? Pourquoi je vous en parle ? Parce que tout simplement, arrive sur Netflix aujourd'hui, c'est cet article du Parisien, page 29 ce matin, un film espagnol très réussi, tout le monde dit qu'il est formidable, grand film espagnol, dit le Parisien, qui s'appelle Le Cercle des Neiges, donc sur l'histoire vraie, hein, sur le célèbre crash d'un avion dans les Andes, Cordillère des Andes, en 1972, le réalisateur Juan Antonio Bayona a rencontré les survivants. Le 13 octobre 1972, l'avion, donc on va rappeler les faits, transportant une équipe de rugby, je pense que vous connaissez l'histoire, elle est connue, quelques amis et de la famille de Montevideo en Uruguay à Santiago au Chili, s'écrase dans la cordillère des Andes. Des 45 passagers membres d'équipage, il ne reste que 29 survivants, coincés en haute altitude, ils vont attendre beaucoup de temps avant d'être secourus. Rapidement à court de vivres pour certains grièvement blessés, les passagers gardent le moral, espèrent des secours rapides, mais qui ne vont pas venir tout de suite, alors que plusieurs commencent à mourir d'épuisement ou de faim. Quelques survivants se résolvent à l'inimaginable, manger les cadavres de leurs amis. Donc personne n'a été tué pour être boulotté. Ils ont mangé les morts. Mange tes morts. Tout le monde a déjà entendu parler de cette tragédie du vol Fuerza Aérea Uruguay à 571 et de l'incroyable sauvetage des derniers passagers encore en vie, parce qu'ils en ont sauvé quelques-uns, avant Noël 1972. Mais, c'est pour ça qu'on parle de... Non, Slippers, non, enfin. Mais, ce qui est nouveau, c'est ce film, et qui a priori est plutôt réussi, Le Cercle des Neiges, disponible sur Netflix aujourd'hui, en lice pour les prochains Oscars, s'il vous plaît. Propose un œil complètement neuf sur l'événement. Juan Antonio Bayona, réalisateur espagnol, en tire un film profondément émouvant, une tragédie qui bouleverse le spectacle sans sensationnalisme, n'éludant pas le thème du cannibalisme, mais le traitant avec une pudeur, dit le Parisien, remarquable. Comment traiter avec décence cette thématique ? C'est la question que le journal a posée au réalisateur espagnol. Eh bien, il répond, d'abord, il y a eu un livre formidable qui a été écrit par quelqu'un sur le sujet, et puis aussi une cinquantaine d'interviews que le réalisateur a fait avec les survivants et avec les familles des disparus. J'ai réuni, dit-il, un maximum d'informations pour me faire une idée et suivre la chronologie. Le thème du cannibalisme, parmi les survivants, là, apparaît d'abord de manière individuelle. C'est un, puis deux, puis trois qui commencent à y penser. Puis ils se communiquent au sein du groupe, s'étant. Les survivants étaient des personnes qui étaient allées à l'université. Certains possédaient des connaissances médicales, d'autres savaient le droit. Certains étaient croyants. Cela a nourri leur réflexion avant qu'ils n'arrivent à un consensus. Ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, on va aller manger. Et ils décident finalement de manger de la chair humaine lorsque certains d'entre eux donnent leur accord pour que les autres mangent leur cadavre une fois qu'ils seront morts. C'est ça l'histoire. À un moment, certains, sentant qu'ils allaient mourir, ont dit « Écoutez, moi je suis d'accord que pour que vous me boulotiez. » C'est ça qui s'est passé parmi ces survivants. Un processus graduel. Vous montrez cela comme une suite logique inéluctable dans votre film, et le réalisateur répond « Il est avéré qu'au sein du groupe, personne n'avait une autorité particulière. Tout est arrivé par consensus. Personne n'a forcé quiconque à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Personne n'a été forcé à manger de la chair humaine. » Parlez-nous des rencontres avec les survivants, demande le journal. Nous avons réussi à obtenir la collaboration de tous les survivants. Il reste encore 15 survivants, ils sont tous différents. Certains n'en parlent jamais, d'autres beaucoup. Certains vivent presque de ça par leurs témoignages. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils font des conférences. Voilà. Donc, et le Parisien demande, mais est-ce qu'ils se rencontrent toujours ces survivants ? Oui, et ils sont différents. Il peut y avoir des tensions entre eux, mais chaque année, quand survient la date anniversaire de l'événement, ils se réunissent, c'est impressionnant de les voir, ils ont vécu des choses que seuls eux connaissent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je lance le débat ! Il faudrait être fou, mais cette situation des rugbyman rend fou. Si je suis fou, certainement que oui, dit Yaz à cette question, oui. Alors, bêta version Marion dit, franchement, s'il y avait une discussion avant, en plus, en mode, moi, je préférais que ma mort permette aux autres de survivre. Dans le film d'origine, me dit Grégouze, il y a un moment presque touchant où l'un des gars plaisante, je donne mon accord à ce que vous me boulotiez, à condition que vous finissiez vos assiettes. Pas mal, ça. Comme le dit Gandalf Listari, je pense que sur l'instant, l'instinct de survie te commande de faire le nécessaire. Par contre, le après doit être terrible à vivre. Ben Paulet lance le débat. Mangeriez-vous plutôt un humain ou votre animal de compagnie dans ce cas ? Le défécateur officiel nous dit « J'accepterai, mais à condition d'être bien cuisiné et avec des herbes. » Je vous lis. D'un côté, il y a beaucoup de viande sur les rugbyman. Ça aurait été un avion de marathonien, il y aurait eu moins de débats entre eux, dit Monzarek France. Sondage. J'ai pas d'animal, donc je mange Samuel Etienne et Valérie D'Amido par dépit, dit Tonica. Ok. Sondage. C'est la première fois que je fais ce sondage. Question extrêmement claire que je suis en train d'écrire. Pour survivre, pourriez-vous manger de la chair humaine. Eh, il est pas cool ce sondage. Let's go. Haha. Je suis très curieux du résultat de ce sondage. Seulement si c'est ma prof de maths de 4e, dit Franz. Est-ce que le cerf humain c'est considéré comme de la chair humaine ? Non. Cuit ou cru, dit Clem. Cuit. Est-ce qu'ils avaient du feu ? L'article n'en parle pas. Ok, mais pas la famille. Lige dans le chat, c'est Master Ice qui dit ça. Dommage parce que le cérumen, je m'en éclate un bol tous les matins. C'est excellent, dit fends ta gueule. Ah. Ah, je suis dégoûté. Ah, je viens de voir l'image du bol de cérumen. Au petit-déj. Je suis deg. Oui, s'ils sont morts, bien sûr. Oui, s'ils sont morts. Dans la situation de l'avion, là. Hein. Ok, mais pas les enfants, dit Rimek. Je vous lis, hein. Bébou Saturne, tant que j'ai pas à tuer l'humain ou que c'est poursuivi, c'est un grand oui. Ok, mais alors il faut que ce soit bien cuit, dit Alain Melon. Que les enfants, c'est plus tendre, dit Kim Jong-un. Arrêtez. Est-ce qu'ils ont pu faire cuire la viande? J'en doute. Hein. Pas l'impression qu'il y ait beaucoup de butagaz, là, de réchaud là, dans leur truc, là. Reine DNG écrit « Au vu du sondage, je ne prendrai jamais l'avion avec vous. » Voici les résultats. Pour survivre. Vivre ou survivre. Nanana. Bon. Pourriez-vous manger de la chair humaine? Vous êtes presque 60%. 59%. Précisément 423. Avoir répondu « Oui. » Je pourrais boulotter mon voisin de la place 3C pour survivre. Je ne sais pas, vous êtes très nombreux, c'est un sujet compliqué. 31%, voilà. Et vous n'êtes que 10%. Et vous n'êtes que 10%, 69 personnes, à préférer mourir de faim, donc, plutôt que de boulotter votre voisin de siège. Voilà. Et toi, Samuel, je sais pas. Je serais dans les 31%, moi. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Ce chat est à croquer, dit Rainbow 86. Je sais pas. Je sais pas. Quelqu'un m'appelle en plein stream. Pas m'appeler en plein stream, je sais pas qui c'est. Pas qui c'est. Mais du coup, ça veut dire que les gens qui ont répondu non, vous allez être bouffés par les autres. Là, les 69 là, qui ont répondu non, vous allez donc mourir de faim et vous allez être bouffés par les 423 autres. Hein, c'est oui. Quelqu'un qui m'appelle. Et qui insiste. Je suis en live, enfin. Il y a Marich qui dit, Samuel, si de la chair, manger de la chair humaine peut te permettre de retrouver tes enfants, eh bien tu manges, je pense. C'est le fisc qui t'appelle. Non, c'est une dame qui m'appelle. Ah, si, ok. Mais quelqu'un qui ne sait pas que je live le matin. Merci Alain Melon qui me signale que je suis par ailleurs à croquer ce matin. C'est la petite barbouze, petite barbe là, petite barbonnette. Bon, j'ai la réponse à ma question. La pâte molle, merci beaucoup pour ce soutien. Merci pour cet abonnement. Alors, de quoi je voulais vous parler aussi ce matin? Un petit peu des Jeux Olympiques. Parce que Libération, ce matin, ce jeudi matin, est trop hypée par le fait que Snoop Dogg soit hyper hypé par les Jeux Olympiques de Paris. Ouais! Mesdames et messieurs, Libération qui, il y a quelques jours, disait « Et finalement, si ces jeux se passaient bien, ces jeux qui provoquent tant d'émoi, de polémiques, de débats, qui arrivent dans 6-7 mois, là, Libération qui a dit « Mais finalement, peut-être que ça va bien se passer, quoi. » Et puis Libération qui nous dit « Cool, Snoop Dogg va commenter les Jeux Olympiques de Paris, et ça, c'est cool. » Snoop Dogg se dandine devant la Tour Eiffel pour annoncer au monde entier qu'il prendra le micro pour commenter les JO 2024 du pain béni. Tout au long des Jeux, il donnera le change au présentateur de NBC Olympics, Mike Tirico, pour ne rien gâcher l'ogre. C'est marrant, puis on vient de parler de cannibalisme. Bon. Du divertissement, c'est déjà même mis aux Français. Il tease son prochain job dans la, bande de, dans la langue de Molière. Bon, on va essayer de trouver ça, bien sûr. Snoop. Quelqu'un me dit, Samuel, Snoop Doggy Dogg. Non, chouchou. Les artistes changent régulièrement de nom. Aujourd'hui, Snoop, qui est devenu Snoop Doggy Dogg, aujourd'hui on l'appelle Snoop Dogg. C'est son nom d'aujourd'hui. Peut-être que demain sera Snoop Cat ou Snoop Canary. Ou... Je ne sais, mais aujourd'hui c'est Snoop Dogg. Tu dates un peu, Choupitou. Et si on trouvait la petite vidéo dont on parle là ? Smoke weed every day. Excusez-moi. Ça doit être ça.
Snoop Dogg.
Ah non, ça c'est un truc.
Style caractéristique.
On s'en fout.
Tirico.
Non, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux le clip, moi.
Pendant les JO, tous les.
Ah, mais je veux pas ça, moi. Je veux pas le.
Tirico.
Oh, c'est pas ça que je veux. Ça ? Non. Oh là là, quelle de la merde. Facebook, le... sur Facebook, moi. Je vais aller sur directement sur YouTube. Alors, YouTube. YouTube. Snoop. Dog. Alors. Je l'ai quelque part. Oh, j'en ai des conneries.
Snoop Dogg va couvrir les Jeux Olympiques de Paris 2024.
C'est pas ça que je veux. Ah, merci. Il y a un MMG qui me dit qu'il a épinglé la vidéo en lien. Merci. Ah, heureusement que t'es là. Je t'ai perdu, hein. Ok. Hop, on va aller voir. Ah, bah c'était sur le compte X Twitter de Snoop. Ok. Parce que je l'appelle Snoop. J'aime beaucoup d'ailleurs. Go! Hey, la classe. Sobre. Ah oui, c'est très sobre. Non, mais moi, je pensais qu'il avait parlé français et tout dans le clip là. Zut. C'est tout ? Ah non ! C'est celle-là en dessous là. Ok.
Jingle bells, jingle bells. Oh, it's Happy New Year. Today, I'm here with Team USA. Hanging out with Olympic skateboarder, Jagger Eaton. What's up, Jag?
What's going on?
Explain this to me, what we seeing, what we watching.
So right here, you're seeing up the middle of a backside 540.
540? I would get a tattoo of that if I was
no,
you.
No, I'm definitely not getting
what
that tattoo.
What are you waiting on? Ladies of the world. Ladies, I need 100 ladies to get this tattooed on your right arm.
This is Asia in action, photo one. See what that is? That's an old school finger roll.
I actually smoked this layup.
You missed that?
100%. At least we won.
Gold, right?
That's it. Yeah, that's
gold.
That.
Gold is the
gold.
That's
a dorsal make.
Oh, wow. What is this move called?
That's an aerial, a cartwheel without your hands.
On that little bitty piece of wood right
yes.
there? That's what it sounds like, right? Can you explain to me what this is? What is that? What is that?
That is an epic celebration. What are you loving about this?
Let it go. Just let it go. L-I-G. I want to see this moment again in Paris.
You're going to be celebrating with us.
Yeah,
pinky
it.
Swears. Bang, bang, pinky gang.
Cool.
I'll see y'all in Paris. Bonjour.
Bonjour.
What do we mean?
Yes, yes.
Yes.
Oui.
Il est tellement cool. C'est tout ce qu'on a en... Il y a plein de petites vidéos... Ouais. J'adore.
Jingle
bell, jingle bell. Donc, on se refait celle-là pour le plaisir, ok? New York Mood. New Year Mood. Paris 2... C'est quoi, 2024? Olympics. See you this summer. On se la refait pour le plaisir.
Oh, it's Happy New Year.
Non, ça... Hey, pas mal. Snoop, je l'ai appris ce matin, qui est né en 1971. Autant dire que c'est une année bénie. Voilà, je viens d'apprendre que je suis né la même année que Snoop Dogg. Et ça explique bien de choses, bien des choses, bien de choses. Un random sympa. Merci pour les beats. Bon, ça vous hype un petit peu ou pas? L'annonce de sa participation aux Jeux 2024, en tout cas hype, Libération qui écrit que ça nous fait l'effet d'un printemps en plein hiver. La superstar du rap qui rend le gangstérisme cool et funky depuis plus de 30 ans illumine un événement sportif en quête de désirabilité, donc les JO de Paris, dans un monde fébrile en manque d'air et de légèreté. On va parler d'humour tout à l'heure. Ceux qui me taclent sur mon âge, vous allez vous prendre des gros bans dans vos dents, bâtards, vous allez voir, excusez-moi. Suivre les pérégrinations de Snoop à Paris, c'est un vrai truc en plus, le truc qui donne du piquant, le truc qui vient pimper une mariée qu'on savait plus comment vêtir dans les premiers signaux était inquiétant, polémique, chantier, le prix du Navigo, saturation des transports, inflation, avant quelques nouvelles rassurantes que Libération y a évoquées il y a quelques jours. Qui mieux que Tonton Snoop, 52 ans, pour raviver la flamme olympique des Fers de Paris 2024, une fête, voire une grande messe païenne. Nous allons assister à des compétitions extraordinaires, bien sûr. J'apporterai le style Snoop dans tout ça, ce seront les Jeux olympiques les plus épiques de tous les temps. Alors restez à l'écoute, ne lâchez rien, élevons, célébrons, rendons ces Jeux inoubliables. Pardon, enfumons la compétition, dit Snoop. Enfumons la compétition, dit Snoop. Okay. Il a totalement cassé le game quand même. Enfumons la compétition. Enfumons la compétition. Et que le meilleur brille comme de l'or, paix et amour olympique, a déclaré le rappeur dans un communiqué publié par NBC Sports. Ah, il l'a écrit, il ne l'a pas dit. Le Californien pourrait bien amener dans son sillage une nuit de célébrité qui ferait de Paris la capitale mondiale de l'insouciance et des good vibes durant l'été 2024. Ce serait cool, ça. Ce serait cool. Ce serait cool. Ce serait cool. En fait, c'est ce que souhaite Libération. Voilà. Oh, le petit plaisir de Libé ce matin. Voilà, claquette propre. Merci beaucoup pour le Prime. Et moi aussi, je vais vous parler des jeux, mais cette fois moins sur l'aspect Snoop. Que sur l'aspect sport et nouveau sport et culture urbaine qui s'invite aux Jeux Olympiques. Pourquoi, le comment, double page dans la croix ce matin, on va se régaler, vous allez voir. De la culture... Ah, oh, c'est chiant. Ces poumons qui ne veulent plus marcher. J'espère qu'ils vont se réparer bientôt. Triange, merci pour le prime. De la culture urbaine aux Jeux Olympiques, c'est quoi cette histoire? Skateboard. Pour la deuxième Olympiade consécutive, puisqu'on s'en est parlé, le skate était déjà sport olympique à Tokyo. Breakdance, ça c'est la première fois. Surf, alors surf je ne sais plus, on va vérifier tout de suite, est-ce que le surf a déjà été sport olympique ou pas? Alors des compétitions de surf au niveau mondial, ça il y en a bien sûr. Certains me disent oui, ça a déjà été. Quand? Surf, bien sûr, Ninos Echo. Non, dites-moi, quand, où, comment? Tokyo aussi? Sport. Alors, c'est parti, Tokyo. Les Japonais aiment bien le surf en plus, je crois. Ouais, exactement, ok. Vous avez raison. vérifie. Je vérifie toujours, moi. Ok. Les épreuves de surf lors des Jeux Olympiques d'été 2020 se tiennent à Tokyo, au Japon. Ok. J'ai une page wiki. Surf aux Jeux Olympiques. Je m'arrête, ça m'intéresse. Le surf... Pop. Voilà. Le surf est au programme des JO d'été, donc Tokyo 2020, en tant que sport additionnel. Voilà, c'était la première fois. Sport additionnel, pas encore sport officiel. Il sera sport officiel, Jeux Olympiques, on joue un petit peu sur les mots, pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. D'accord, ok. Ok. Donc pour les Jeux de Paris, ce sera donc à Tahiti, hein, sur le site de Teahupu'u. Ok. Ok, ok. Donc deuxième édition pour le surf, deuxième édition pour le skateboard, breakdance c'est une première, comme le karaté il y a 4 ans me dit Slack, sauf que le karaté a été retiré et n'est pas olympique à CJO de Paris, on en parlait tout à l'heure. Hop, voici l'article de La Croix pour, qui va bien au-delà de ce sujet, qui pose la question de pourquoi ces nouveaux sports, quel succès, quelle est l'intention, etc. Skateboard, breakdance, surf, le programme des Jeux Olympiques de Paris 2024 réserve une belle place à des sports issus de la culture urbaine. Les organisateurs misent sur ces disciplines, très suivies sur les réseaux sociaux, pour attirer un public plus jeune. L'institutionnalisation de ces sports, que représente leur présence aux Jeux Olympiques, fait débat, pourtant, chez ceux qui pratiquent ces sports. Vous allez comprendre, et le débat est assez intéressant d'ailleurs. Si plusieurs sports urbains, on va les qualifier comme ça, après qualifier le surf de sport urbain, c'est un peu bizarre, mais bon, seront bien représentés aux Jeux de Paris, leur destin olympique n'est pas du goût de tous. Entre code de la rue, pratique artistique et sport pur et dur, les frontières restent, selon certains, infranchissables. Lucas Delaunay s'éloigne de quelques pas du skatepark Saint-Serge à Angers, où il vient de s'entraîner. Il s'assit sur un banc tout près, donc c'est un skater, et décapsule une canette. Canette de quoi ? Canette de bière. Et il dit au journaliste de La Croix, tu imagines ça, toi, au JO, des sportifs qui, à la peau, se sifflent une bière ? C'est pas très sérieux. Pourtant, c'est ça, le skate, dit-il. Le jeune homme, au pull élimé, en levant les yeux en l'air. La présence de ce sport aux Jeux Olympiques de Paris 2024, après une grande première à Tokyo en 2021, ne convainc effectivement pas tout le monde. Avec les Jeux, on touche au sacré, ironise l'amateur de planche à roulettes. Il s'approprie la culture du skate pour en faire un sport comme les autres, avec des notes, des performances, des sponsors qui n'ont rien à voir avec notre monde du skate. Il est un peu en colère, nous sommes nombreux à ne pas être dans ce délire de la priorité au sport. Le skate comme une culture, hein, comme un mode de vie et pas seulement uniquement comme un sport avec des performances. Au contraire des infrastructures mises en place à l'occasion des JO et jugées totalement aseptisées au millimètre près, ce jeune homme rappelle que la culture skate repose avant tout sur le fait de s'adapter à son environnement. On tend à prouver qu'on peut faire des figures sur un spot qui à la base n'était pas prévu à cet effet. Plus qu'un cri contestataire, le sentiment du passionné reflète une réalité, celle de deux camps qui s'opposent sur ce sujet. D'une part, les compétiteurs qui voient dans les jeux l'opportunité de mettre la lumière sur leur discipline. De l'autre, des puristes qui redoutent l'absorption de leur art, de leur culture, de leurs valeurs par une machine économique qui les dépasserait. Avec les épreuves de breaking, de skate, de surf ou de basket 3 contre 3, de retour après Tokyo 2021, la rue et la culture urbaine s'invitent donc à nouveau dans la quinzaine olympique l'été prochain. Une mise en avant qui semble répondre aux exigences d'un nouveau public. Plus jeune, recherché par le CIO, les Jeux 2024 sont totalement dirigés vers un triptyque jeunesse, populaire et urbain, rappelle Éric Monin, qui est un sociologue et directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire, et qui dit « On vit dans une époque où on n'a plus besoin d'être licencié pour faire du sport, il suffit d'avoir une application sur son téléphone ou de pratiquer en bas de chez soi », détaille le spécialiste. Du coup, on assiste à un affaiblissement du système fédéral du sport au sens large, et le CIO l'a bien compris. Désormais, le CIO cherche donc à attirer le sport de culture urbaine dans son giron. Le move est assez clair, quoi. C'est un prisme très français de ne pas vouloir mélanger les genres, mais le mix sport et culture est un positionnement que l'on assume complètement, dit encore Clarisse Costaz. Qui est Clarisse Costaz ? C'est la responsable Paris 2024 pour le breaking et pour le basket 3 contre 3. Au-delà de la performance, nous avions cet objectif d'attirer la jeunesse vers les jeux, à travers cet art de vivre, on va chercher des sports qui cartonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément, intérinés sur France Info. Tony Estanguet, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que... Moi j'ai un doute là-dessus. Est-ce que le skate, est-ce que le breakdance, pour reprendre l'expression officielle, est-ce que le surf sont des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux? Pas vraiment en fait. Pepper June dit bah non, c'est plutôt un peu underground quand même. Blee Moon me dit oui, Vaughan me dit perso, j'entends pas vraiment parler. C'est faux, les jeunes matent le basket, le foot, le MMA. C'est de niche, c'est sport, me dit Saint-Saëns. À quand l'e-sport plutôt, nous on veut la Carmine, Antares, ça arrive dans un instant, on va en parler ce matin de la Carmine. Ça underground, ça doit le rester, dit Ectelion. Ah, en vrai, non, il n'y a que Red Bull qui va pousser ça, et encore, on n'en voit pas beaucoup. Ouais, c'est très visuel, c'est pratique. Donc oui, dit Bing Seibu. C'est de niche, moi j'adore, mais j'ai toujours l'impression d'être le seul, me dit Nekuo. Ouais. Mmh. On attend surtout l'e-sport, me dit Adri. Ouais. Ok. Donc Tony Estanguet, en tout cas, estime que ça peut permettre de toucher un nouveau public, plus jeune. Tony Estanguet, qu'on va recevoir dans quelques jours, au mois de janvier, normalement, sur cette chaîne Twitch, pour parler des Jeux Olympiques. Une rencontre, Étienne, vous poserez toutes les questions que vous voudrez à Tony Estanguet. Il faudra bientôt rendez-vous, parce qu'il a un agenda, un calendrier de fou, et il ne va pas venir très 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 longtemps. Hein. Ce ne sera pas un stream de 3 heures. Hein. Mais il sera notre invité sur cette chaîne dans quelques jours, normalement, courant janvier. Ce clivage entre les pros et anti-JO a été observé à Tokyo, dans le monde du surf à l'époque. Se distinguaient deux catégories en 2021, les sportifs chevronnés favorables aux Jeux et les surfeurs hors cadre, en quête de la vague ultime. Avant, quand un sport rentrait aux Jeux, c'était le Graal, on faisait tout pour ne pas sortir du programme olympique, rappelle Éric Monin, donc le sociologue. Désormais, ces sports urbains, incarnés par des jeunes de 14 ou 15 ans, qui revendiquent un style de vie et une liberté, ne sont pas en totale adéquation avec le système olympique et ses codes. Merci Barbax et coucou à ton épouse. Au cœur des débats, le risque de perdre son âme et de se retrouver dilué dans le grand bain olympique. Juger un skater, c'est pas simple, mais au même titre finalement que juger un patineur artistique, dit Benjamin Garcia, qui est vainqueur de la Coupe du Monde 2017 de skateboard. Il y a un côté assez imprévisible de chaque prestation, et c'est aléatoire selon les juges, mais c'est un peu la même chose en patinage artistique, dit-il. De fait, le juré olympique, composé de skateurs chevronnés d'ailleurs, tend à rassurer les prétendants au titre olympique. Il en est de même pour le breaking. Parmi les athlètes favorables à la présence de leur discipline aux Jeux de Paris 2024, par exemple, vous avez Camille Bousselam, qui est un b-boy, donc un danseur français, champion du monde 2006 et 2011, et il dit bah, « il faut se réjouir ». La lumière, la reconnaissance, la crédibilité en tant que sportif de haut niveau qu'on a connu ces dernières années grâce à l'arrivée aux Jeux, on ne les avait jamais vécues auparavant. Certains avaient peur que le sport, donc là on parle du breaking, soit dénaturé avec l'arrivée aux Jeux, qu'on casse le côté artistique, le côté subjectif de la discipline, dit le danseur, mais le doute en fait s'est dissipé. Dissipé, pardon, progressivement, puisque le CIO a entendu toutes les instances pour proposer des épreuves qui respectent l'environnement dans lequel a grandi la discipline. D'autres pointent une certaine hypocrisie dans le mouvement anti-JO, comme le jeune skater qu'on a écouté tout à l'heure. On parle des Jeux qui sont un événement planétaire, mais si on prend un peu de recul, c'est une compétition de plus qui ne dure qu'un jour pour les skateurs. Donc l'attitude qui consiste à bouder les Jeux alors qu'on accepte les autres compétitions, je trouve ça un petit peu malhonnête, explique Benjamin Garcia. Ces nouvelles disciplines n'ont d'ailleurs pas encore obtenu la légitimité des sports historiques. Elles risquent même à chaque échéance olympique de disparaître au profit d'une autre. Ça a été le cas pour le karaté, donc unique apparition olympique en 2024 à Tokyo et qui n'est pas en 2020 à Tokyo et qui n'est pas en 2024 à Paris. Ce sera le cas en 2028 du breaking qui ne sera pas olympique à Los Angeles. Et du coup, les pratiquants de breaking se mobilisent actuellement pour les Jeux de 2032 qui seront en Australie, Brisbane, je crois que c'est en Australie. 2021 Tokyo. Les questionnements philosophiques autour de la présence de ces nouveaux sports pourraient en entraîner d'autres. Ah ah, et là on va parler d'e-sport. Attention, roulement de tambour. Les questionnements philosophiques autour de la présence de ces nouveaux sports pourraient en entraîner d'autres. Depuis quelques années émerge la question de l'intégration ou non de l'e-sport, ces compétitions de jeux vidéo dans le monde olympique. Après les sports issus de la rue, la pratique sportive de salon exercée en salle de jeu, en réseau ou individuellement sur Internet pourrait également aspirer à devenir discipline olympique. sujet compliqué, débat compliqué, passionnant, comme le résume Slerk de façon très intelligente dans le chat, trop compliqué l'e-sport aux jeux. Quel jeu mettre en avant ? Eh oui, le problème d'un jeu vidéo, c'est une licence, c'est une marque, c'est une entreprise derrière. Comment choisir tel ou tel jeu et du coup telle ou telle entreprise ? Le foot, ça n'est pas qu'une entreprise. Le basket, ça n'est pas qu'une entreprise. Le karaté dont on parle à l'instant, mais je dis n'importe quoi, moi. Counter-Strike ou Smash, ou, ce sont des licences, quoi. Et puis, il y a autre chose. Comment choisir parmi tous les jeux ? Et puis, ce que dit aussi le CIO, c'est attention, il y a des jeux dans lesquels les valeurs olympiques ne peuvent pas se retrouver. Hein. Moi, je passe mes après-midi aujourd'hui à tirer sur des gens, à faire des gros headshots dans la gueule de leur mère sur Valorant. Est-ce que c'est très olympique, vous voyez ? Hein ? Est-ce qu'on peut mettre en avant avec les valeurs de l'olympisme, qui sont quelque part aussi des valeurs de paix, hein, une espèce de pause dans la violence dans le monde, c'est aussi ça l'olympisme, est-ce qu'on peut mettre un sport où on se tire sur la gueule, où on s'envoie des grenades dans les genoux ? Je pose la question, je lance le débat. Voilà. Donc ça, c'est l'une des questions. Tous les jeux de guerre, vous pouvez oublier, par exemple, dit Thermo 74. Or, pourtant, ils sont très, très populaires. Hein? Comme le dit FR Worker, la problématique du jeu vidéo, c'est justement cette question de propriété intellectuelle. Les disciplines dans le jeu vidéo sont couvertes par un droit de propriété intellectuelle, donc un contrôle des éditeurs, alors que les sports appartiennent au domaine public. Voilà, tu le dis beaucoup plus clairement que moi. Merci beaucoup. Il y a bien du tir au jeu, donc bon, oui, mais enfin, Orange Mecha, il tire sur des petites ciblettes. Hein. Pas des gros headshots, quoi, à la Vandale ou à l'Odin, quoi. Hein. C'est pas pareil. Rocket League, ok. C'est vieux Lama qui propose Rocket League. Ouais, et puis voilà, et puis on changerait de jeu tous les 4 ans, du coup, quelle pérennité, demande Gandalf Listari. C'est un sujet très intéressant, mais pour le coup, compliqué, quoi. Merci Triange pour le gentil message, je n'avais pas vu. Tetris, dans le domaine public depuis le temps. Oui, mon capitaine, Tetris est dans le domaine public ? Du Mario Kart. Oui, je sais. Galigard nous invite à chercher e-sport Olympics. C'est déjà prévu. Il y a des jeux e-sport pour les jeux, mais c'est juste n'importe quoi. Il y a de gros scandales derrière. Il y a des jeux qui sont dans la liste, mais c'est des jeux qui sont pas très très intéressants en fait. Alors, Tetris n'est pas dans le domaine public, réponse de FR Worker. Tetris Company protège très fortement ses droits de propriété intellectuelle par des actions en justice, sans doute. Ouais, donc vrai sujet. Il y a plein de gens qui trouveraient très pertinent que l'e-sport devienne olympique, mais alors quel jeu, hein, ça c'est la question. Ça. Même la question du matériel, même presque aussi. Comment s'assurer que tous les participants aient exactement le même matériel aussi ? Enfin, ça se résout peut-être facilement, ça. Fall Guys, parfait pour les jeux. Imagine une compétition. Imagine un médaillé d'or olympique en Fall Guys, quoi. Avec un joli skin. Pape 75, vrai sujet, mais vous êtes sérieux ? Ouais, je suis très très sérieux. Sur le jeu vidéo, je suis très sérieux. C'est toi qui ne l'es pas. En ne prenant pas ce sujet au sérieux. D'ailleurs, paf ! Bam ! Une pleine page sur la K-Corp dans un instant, c'est dans l'équipe. Mais d'abord, on va parler d'humour. J'ai le droit, 2h10 que je cause, j'ai le droit de me faire un petit déca. Double page dans le Parisien. Ah putain, faut que je file à la maison. J'ai une livraison Chronopost. Oh merde. Bon, pas de pause café, j'accélère. Ok. Ouais, faut que je file à la maison. Putain, j'avais pas vu que c'était pas si vite. Ok, on accélère à fond. Double page dans le Parisien. Énorme succès des humoristes en France. Ça cartonne. La nouvelle génération, mais aussi les anciens. Voilà, on reconnaît l'ami Arnaud de sa mère qu'on aime beaucoup, qu'on reçoit souvent ici, notamment dans l'hebdo Étienne. C'est l'humour fou. Je vous résume le papier. Ça cartonne. Les spectacles sont complets parfois un an à l'avance. Les salles sont de plus en plus importantes. Je vais au pourquoi du comment directement. Guerre, terrorisme, climat. En ces temps sombres, le rire est devenu peut-être une valeur refuge. Besoin de décompresser, de se retrouver, de faire éclater des bulles de non-dits. Les humoristes remplissent tous ces rôles à la fois. Et ça se traduit par le poids croissant qui est en train de prendre ce secteur dans le monde du spectacle. L'humour, ça n'a jamais autant cartonné. Voilà. Donc, pardon, je vais très très vite. Mais le sujet est vachement sympa. Et c'est dans Le Parisien, pages 26 et 27. Je garde quelques minutes quand même. Pardon. J'avais pas vu que le temps était passé si vite. Pour vous lire une page entière sur la CACORP dans l'équipe aujourd'hui, page 27. Voilà. Imaginez, quelques années, on vous aurait dit une page entière sur la CACORP dans l'équipe juste pour dire qu'il y a un nouveau sponsor. Vous m'auriez dit, tu te fous de ma gueule, Papy Sam. Eh bien, non. Du renfort pour la Carmine. Très bon article signé Quentin Coldéfi et Paul Arrivé. Excellent Paul Arrivé. Spécialiste de l'e-sport sur l'équipe qu'on a reçu ici aussi. Le CIC devient pour 3 ans le partenaire du club français d'e-sport en plein développement. Donc le CIC, c'est une banque, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'essentiel là-dessus? Alors déjà, moi, je vais vous donner la parole à Claude Kössner, qui est le directeur général du CIC. Bon, c'est pas une publi machin, hein, c'est un vrai article, hein, je vérifie quand même. Qui dit pourquoi il a mis des sous là-dessus. Il dit l'e-sport n'est plus un petit truc qui ne touche que les ados. C'est pour répondre à la question qui quelqu'un qui disait dans le chat à l'instant. Non, mais vous êtes sérieux? L'e-sport aux Jeux Olympiques, vous êtes sérieux? C'est un vrai sujet? Bon, bah, je cite le patron du CIC. L'e-sport n'est plus un petit truc qui ne touche que les ados. On a fait une étude annuelle. 50% des Français savent en parler. 20% en consomment. Ce n'est pas un effet de mode. Ça va s'installer dans la durée. On y a cru peut-être un petit peu avant les autres, puisque j'apprends dans l'article que le CIC est engagé depuis 7 ans dans l'e-sport en soutenant déjà des trucs. Et là, ils vont soutenir la CACORP pendant 3 ans. Donc après, l'article détaille un petit peu les activations, ce qui va être mis en place. Bon, sponsoring classique, quoi. Et ça, je trouve ça. Quelqu'un m'en parlait dans le chat tout à l'heure en me disant que c'était son rêve. Et ben, ça arrive. Une carte bancaire à l'effigie de la CACORP assortie à des avantages en lien avec le secteur. Je sais pas, peut-être. Des réductions sur les places lors des compétitions présentielles. Une carte bancaire, donc, à l'effigie de la CACORP qui sera présentée aux clients au printemps prochain. Elle est en prépa. Donc, on fait beaucoup parler le DG. De la CACORP, donc pas Kamel, hein, mais comment il s'appelle, je vous le retrouve, où est-ce qu'il est, il est beaucoup cité dans l'article, je le trouve plus, c'est le CEO, c'est le PDG en fait, c'est pas le fondateur, oui, Arthur Perticot, c'est ça, voilà, il est beaucoup évoqué, hein, dans l'article, puisqu'on est sur l'aspect économique du club. Et puis la parole aussi à Kameto. Si le modèle économique de l'e-sport repose encore beaucoup sur les sponsors, la Carmine refuse de se lancer dans une course au partenariat. En tant que fondateur, j'ai mis des limites sur certains partenariats comme l'alcool, comme les jeux d'argent, tout ce qui ne pourrait pas être conseillé à une jeune communauté, détaille Kameto Kebir, cofondateur de la CACORP. Voilà. Et puis il y a quelques chiffres aussi sur les investissements à venir. Voilà. Chiffre d'affaires de la CACORP, 4 millions en 2022. Triplement entre 2021 et 2023. Objectif, selon Arthur Perticot, qu'on évoquait à l'instant, 84% de croissance du chiffre d'affaires en 2024. On ne voit pas ces accélérations tous les jours. Voilà. Le club a consenti ces derniers temps à des investissements conséquents, une vingtaine de millions d'euros à l'échéance 2025, pour intégrer dès cette année le championnat d'Europe de League of Legends. Il s'apprête à ouvrir des bureaux à Berlin. Sera cet été le premier à disposer de sa propre enceinte à Évry-Courcouronnes. On en a parlé, hein, de ce stade, en fait, hein, de cette enceinte à Évry-Courcouronnes où la CACORP pourra faire ses compétitions en présentiel. Quelqu'un me disait, c'est vrai, 4 millions d'euros en 2022, c'est pas énorme non plus comme chiffre d'affaires. C'est vrai, mais c'est en train de grossir très fort, quoi. Voilà. Bon, je suis allé très très vite, mais je voulais vous signaler quand même cet article dans Le Parisien, une pleine page sur le renfort financier d'un nouveau sponsor pour la K-Corp. Pardon, j'accélère un petit peu, je bâche un petit peu la fin là, mais j'ai mon Noël en Bretagne décalé qui arrive en janvier, donc de mon côté cette fois, et donc j'ai commandé quelques petits cadeaux pour la famille, et c'est en train d'arriver notamment par la poste, et je sais que la Chronopost qui arrive à partir de, vous savez, le fameux rendez-vous entre midi et 13h, et en fait vous êtes à la maison, vous attendez, et ça sonne pas, hein, voilà, vous êtes là, et puis il laisse juste le papier ou le SMS en disant « Ah bon, on est passé, vous étiez pas là ». Bon, bah j'ai rendez-vous avec ces gens-là. Je pense que vous connaissez. Hop. Donc, pas de café, hein, le fameux rendez-vous. Ouais, ouais. Donc, mais bon, voilà. Donc du coup, on fait un petit raid express. Je vous laisse me proposer là, maintenant, tout de suite, dans le chat, des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement et qu'on pourrait soutenir par un petit raid. On fera pas l'horoscope, on est trop à la bourre. Désolé, mais merci pour ce matin, je me suis régalé. Pas sûr que je puisse faire un petit stream de Valorant, ça va me manquer. Ça va me manquer. Ça va me manquer. Ah, je vois quelqu'un que j'aime bien qui est en live, là. Vous avez des propales, vous? Vous avez des propales? Non, pas Samuel Etienne, non, il m'énerve, lui. Vieux truc, là. Non, et Yass qui dit, je te propose Samuel Etienne, il paraît qu'il est bien. Non, non, très, très surcoté, Samuel Etienne. Très, très surcoté. Oh, 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 je vois une proposition. C'est vrai? Il est en live? Ah, 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 il est en live. Ok, ok, ok. Destination choisie. Je remercie Dubman IRA qui m'a fait la proposition. Mon ami, mon bras droit, mon partenaire de crime sur Twitch, alias Joe Coco, est en live. Il est en pause. Bon, il est en pause, il est peut-être parti faire un café. Bon, il est en live, c'est pas grave. Je reviens. Bah, ça va lui faire la surprise. Il est en petite pause, je reviens de suite. Avec un joli écran d'attente d'ailleurs. C'est mon ami, c'est mon poteau. Il est de tous les bons coups avec moi. D-J-O-W-C-O-C-O, Joe Coco, si vous perdez. Je lance le raid. Ça va lui faire une petite surprise quand il va revenir de stream, puisque là, il est en petite pause café ou pause. Caca ou... je vais lui envoyer un texto. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour ce matin. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Voilà. Le live est en train de se lancer. Patientez quelques secondes, quelques minutes sur la chaîne de Joe. En plus, il a un joli waiting screen avec plein de jolies photos parce que Joe est passionné de photographie aussi. Et il fait de très belles photos de cet univers de Twitch. Si vous avez des questions à poser sur l'univers de Twitch, posez-les à Joe. C'est quelqu'un qui est acteur, qui est spectateur de ce monde depuis des années. C'est pour moi un des meilleurs connaisseurs de l'univers de Twitch en France. Voilà, et j'ai de la chance de travailler avec lui, quoi. Le raid, pardon, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est-à-dire maintenant. Bonne journée. Je vous tiens au courant de si je lance un petit live gaming aujourd'hui, mais ça va être un peu compliqué, j'ai pas mal de boulot. On se retrouve en tout cas au plus tard demain matin pour la revue de presse. Soyez heureux, vraiment fort. C'est parti pour Joe. Il va revenir, je vais lui envoyer un SMS. Ciao, ciao, merci pour tout, vous étiez super cool. Go!